Donc j'en profite hein, pour je profite que tout le monde soit là et hyper attentif pour faire un petit peu le relais par rapport à un message que j'ai envoyé hier pour l'AEMF. Parce qu'on est donc en train d'organiser, on est sur les prémices des rendez-vous 2014. Donc un colloque qui ressemblera à celui que vous avez pu, auquel vous avez pas pu assister en octobre 2013. Donc on prépare celui d'octobre 2014. Et on a déjà une bonne connaissance de la salle dans laquelle on pense pouvoir réaliser ça. Par contre, le deuxième niveau de réflexion, c'est le sujet. Et le troisième niveau, c'est l'organisation. Et aujourd'hui, on n'a pas de sujet encore qui soit arrêté. Et mon projet, ce serait d'avoir un maximum de sujets possibles pour ensuite prendre le plus pertinent, celui qui serait à la fois intéressant dans le paysage ferroviaire et peut-être un petit peu justement un petit peu en marge de ce qui est des sujets qui sont couramment pratiqués. Donc peut-être essayer de se différencier un petit peu par rapport à d'autres colloques qui ont lieu. Donc si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me ferait plaisir. Et puis je pense que c'est aussi bon pour la visibilité de la formation en général. Le deuxième point, c'est que c'est une organisation qui se fait couramment avec une petite équipe très motivée. L'équipe des années précédentes, il y a quelques personnes mais qui m'ont signifié qu'elles n'avaient plus le temps pour s'investir. Donc entre guillemets, il y a des places de libre. S'il y a parmi vous des gens qui ont envie de s'investir dans cet événement, c'est d'expérience quelque chose d'intéressant parce que ça sort un peu du cadre habituel, que ça amène à rencontrer pas mal de gens intéressants dans pas mal d'entreprises, un peu ce qu'on peut déjà faire à travers le master. Et donc je suis preneur pour toutes les bonnes volontés de gens qui seraient intéressés, motivés pour aider à organiser un événement l'organisation prend quelques réunions, quelques heures hors des temps purs de réunion de préparation. Et puis également le jour du colloque, où on a souvent besoin d'un peu de gens, voilà, d'un peu de personnes pour aider. Donc n'hésitez pas, et puis même pour toute question sur l'association, sur sa connaissance, il y a un représentant de promotion parmi nous aujourd'hui, qui peut aussi être en relais pour toutes ces questions-là, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis aussi à demander ce que vous pourriez attendre de l'association et ce que vous ne trouvez pas forcément aujourd'hui ou ce que vous trouvez, que vous trouverez bien tout retour d'information, tout feedback pour pouvoir améliorer notre association et donc la visibilité de notre futur diplôme. Voilà. Merci à tous. Merci.
Merci. Merci.
Siffler. À quoi, là, je peux plus trop parler. On m'entend dessus.
Alors, on reprend donc le cours. Comme vous l'avez vu, c'est très très rapide. Donc, ce matin, on vous a présenté un peu les principes de base, les méthodes de calcul, les formules pour le calcul de la vanne et du tri. L'idée, c'est aussi que vous compreniez les principes de construction de ces indicateurs-là. Et cet après-midi, l'idée, c'est de les mettre en pratique, donc au travers de différents exercices où on va monter un peu en complexité au fur et à mesure. Donc la personne intervenante cet après-midi qui va vous faire ça, c'est Martin Koenig, qui est chercheur à l'IFSTAR. Et puis voilà, je te laisse la parole, Martin.
Merci, Corinne. Donc, comme Corinne vous l'a indiqué, je suis chargé de recherche à l'IFSTAR au sein de l'équipe SPLOT. Alors, très rapidement, je ne vais pas vous faire ma biographie, mais juste pour vous expliquer d'où je viens et pourquoi on m'a invité à venir parler aujourd'hui, à venir vous présenter quelques exemples d'analyse coût-bénéfice. J'ai soutenu fin 2011 une thèse en sciences économiques à l'Université Paris 1. Ma thèse portait sur, on va dire, c'était pompeusement intitulé « Essai sur la congestion dans les transports parisiens ». Et je me suis plus particulièrement intéressé aux infrastructures ferroviaires au travers de deux chapitres. Le deuxième chapitre avait pour but de valoriser la congestion dans les métros Je vais un petit peu en parler aujourd'hui. Donc, ce qu'on appelle congestion dans les métros, c'était une vision assez réductrice. C'est le manque de confort, d'espace disponible pour les voyageurs à l'intérieur des wagons. Aujourd'hui, il y aura un exercice qui portera vraiment sur cette thématique-là. Et deuxième entrée ferroviaire, si je puis dire dans ma thèse, c'était justement une analyse coût-bénéfice du tramway des Maréchaux dans le sud de Paris, où on s'était évertué à démontrer que d'un point de vue socio-économique, tout du moins, le tramway n'avait pas forcément tous les bénéfices escomptés. Et bon, ce qui est assez intéressant en tant que chercheur, c'est de voir que mine de rien, on est un petit peu lu par des praticiens. Alors on ne nous a pas du tout écoutés, le tramway était prolongé vers le nord de Paris, mais sachez juste qu'on avait pointé du doigt certains éléments qui ont été repris et qui ont pas mal été discutés dans notamment le dossier d'utilité publique, notamment le fait que pour mettre le tramway en site propre, et ben ça prenait de la place pour les voitures et que, en toute logique, on devrait prendre en compte un tout petit peu, en tout cas, les pertes de temps pour les automobilistes dans le genre de calcul qu'on va faire aujourd'hui. Donc juste avant, pour finir l'introduction, j'ai accepté avec grand plaisir d'intervenir dans ce cours qu'encore une Blancard m'a demandé. Donc ça, c'était il y a quoi, 2 mois. Et le temps passant, j'ai eu un petit peu la pression, mais déjà, je passe après Alain Sauvent. Donc quand on fait de l'économie des transports, on se dit, passer après un tel professeur, il faut mine de rien tenir la comparaison, un tant soit peu. Deuxième chose, je suis convaincu que, en tout du moins en ce qui concerne le côté opérateur, vous êtes bien plus compétent que moi. Donc je devrais pas dire ça. Mais j'espère que j'en réussirai tout du moins sur le volet socio-économique, ou tout du moins comment des fois les économistes pensent à ce genre de problème. J'essaierai de d'éclairer un peu vos lumières. Dernière chose, alors ceux qui sont de l'autre côté de la webcam ne pourront pas intervenir, mais pour vous, surtout n'hésitez pas à m'interrompre, me poser toutes les questions, et si ça se trouve, certaines de vos questions permettront de répondre à celles justement que peuvent se poser les personnes pas disponibles, pas physiquement présente, excusez-moi. Donc, le plan de la séance. Je vais essayer de ne pas être trop redondant avec ce dont on vous a parlé ce matin, mais je vais, mine de rien, revenir un tout petit peu, faire quelques brefs rappels sur l'évaluation socio-économique, et ce d'autant plus que, si je me trompe, ce matin, une partie du cours portait également sur tout ce qui était modèle de génération de trafic, pour prévoir les trafics. Donc, peut-être que M. Sauvent n'a pas eu le temps, suffisamment de temps, en tout cas, pour discuter, ne serait-ce que les rappels théoriques sur l'évaluation socio-économique. Et une fois cette introduction réalisée, on ira, donc, comme le disait Corinne, crescendo dans la complexité avec 3 exemples d'analyse coût-bénéfice. La première portera sur l'automatisation de la ligne 1, où on calculera la vanne et le tri de cette politique mise en œuvre depuis décembre 2012. Donc là, c'est, clairement, je m'inspire des travaux que je mène par ailleurs. Deuxième exo, on va essayer de voir quel choix le décideur public bienveillant devrait-il faire entre financer une nouvelle infrastructure ferroviaire ou rénover une liaison existante. Alors attention, et la remarque que je vais faire est également valable pour le dernier point étant sur un projet de grand tunnel ferroviaire, toute ressemblance avec des cas concrets peut être trompeuse. Je vais sortir plein de chiffres, sachez que ces chiffres, je les ai sortis du chapeau. Et c'est là où vous, a priori, vous avez accès à tout ce matériel empirique que nous, chercheurs, des fois, on essaye de trouver et qu'on ne trouve pas nécessairement. Donc, encore une fois, l'exo 2, pour simplifier, ça pourrait être le choix entre une ligne à grande vitesse ou rénover un TER. Mais prenez pas stricto sensu les calculs que je vais vous montrer, puisque si ça se trouve, très rapidement, vous allez vous rendre compte, mais c'est quoi ces chiffres? C'est pas du tout cohérent. Et c'est idem pour le dernier exercice. Donc, qui est celui qui porte sur un grand projet de tunnel ferroviaire qui pourrait, je dis bien pourrait, ressembler de loin au projet du Lyon-Turin. Donc, encore une fois, toute ressemblance, ok? Bon, je vais trouver le même résultat. Le but, très rapidement, sur les exos 1 et 2, je vais vous laisser un petit peu de temps pour essayer de faire les calculs. Alors, certains d'entre vous, pas beaucoup, ont des PC avec Excel, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, avec votre smartphone qui dispose de l'option calculatrice, et c'est vraiment des calculs que vous devez pouvoir faire sur un coin de table. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous demander de calculer la vanne, d'actualiser le résultat que vous allez trouver sur un horizon de vie, mais vraiment, le but, c'est que même avec votre smartphone, vous soyez capable de faire ces petits calculs, et j'espère vous montrer que bien souvent, l'analyse coût-bénéfice, ce n'est pas un exercice très complexe. La vraie difficulté, c'est de bien concevoir le problème qu'on essaye d'étudier. Donc, l'évaluation socio-économique. L'idée est somme toute assez simple. L'État dispose d'une enveloppe budgétaire limitée et il doit se servir de cette enveloppe budgétaire pour financer différents projets d'infrastructure. Donc toute la question est de savoir quel projet financer, quel projet retenir. Donc je pense que maintenant vous êtes surtout après, bah, peut-être déjà avant le cours d'aujourd'hui, mais après l'intervention de M. Sauvin, vous avez dû comprendre qu'il existe au moins deux grandes méthodologies. La première méthodologie, et c'est celle dont on va plus parler aujourd'hui, c'est l'analyse coût-bénéfice, parfois appelée analyse coût-avantage. Je ne suis pas certain que vous ayez besoin de connaître les petites subtilités. Restez sur l'analyse coût-bénéfice. Et l'autre variante, c'est l'analyse multicritère. Donc je vais un tout petit peu en parler aujourd'hui. Vous n'en avez pas parlé ce matin apparemment, donc je vais un tout petit peu m'arrêter là-dessus. Mais vraiment, le gros de mon message va porter sur l'analyse coût-bénéfice pour la simple et bonne raison que depuis 1982 et la loi d'orientation du transport intérieur, les calculs socio-économiques sont obligatoires, ex ante, et alors je ne me souviens plus exactement de la date, mais un peu après, on a rendu cette obligation également pour ex post. Donc, autrement dit, avant de choisir dans quel projet je vais investir, on doit mener ce genre de calcul, qui repose essentiellement sur l'analyse coût-bénéfice, et maintenant, on doit également le produire après, quelques années après. Vous verrez, c'est somme toute une question de bon sens, mais c'est surtout pour apprendre des erreurs passées, si on peut dire. Alors, l'analyse coût-bénéfice, comme je vous dis, c'est un exercice relativement normé, surtout en France, et donc existe depuis au moins le milieu des années 90 un ensemble de documents de référence qui vont vous donner la valeur du temps, la valeur du CO2, la valeur du coût d'opportunité des fonds publics, la valeur du taux d'actualisation à utiliser. Donc le vrai premier rapport, je l'avais mis sur mon slide précédent, c'était le rapport Vivré en 1989, mais vraiment dans le champ des transports, le rapport fondateur, c'est le rapport rédigé par Marcel Boiteux en 1994. Donc pour la petite histoire, je ne sais pas si j'ai besoin de faire un détour par l'histoire, vous connaissez Marcel Boiteux? Oui, non? C'était l'économiste en chef de EDF, notamment, et on va dire que c'était... Je ne crois pas qu'il ait eu le prix Nobel, mais de mémoire, s'il y a un Français qui aurait pu avoir le prix Nobel dans le siècle passé, c'est plutôt Boiteux qui l'aurait mérité. Et il a laissé son nom dans la postérité des sciences économiques pour la tarification à la Ramsey-Boiteux. Ça, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui dit que vous devez tarifer un bien de fonction inverse de l'élasticité prix. Il y a certains biens pour lesquels on est plus élastique que d'autres. Et donc, quand on est plus élastique, il faut faire un petit peu plus attention à la tarification. Pourquoi ? Bah, parce que si on tarife un peu trop cher, bah, les gens, les consommateurs vont se détourner. Donc l'idée, vraiment, Ramsey Boiteux, c'est pour ça qu'il a bossé chez EDF. Mais après, dans ces dernières années, et je crois qu'il est mort il n'y a pas très longtemps, s'il est mort, je regarde au fond de la salle, non, personne ne me confirme. Oui, il est mort il n'y a pas très longtemps. Bref, jusqu'à 90 ans, il était économiste-chef chez EDF. C'était quelqu'un de très actif. Et dans le champ du transport, c'est vraiment lui qui a produit le premier rapport en 1994, qui a été réactualisé dans ce qu'on a appelé le rapport Boiteux 2 en 2001. S'en est suivi un ensemble de rapports, notamment le rapport Lebeg en 2005, qui s'est traduit par une instruction cadre. On a légiféré. Et dans la loi, dans l'instruction cadre de 2005, est stipulé que dès qu'on doit mener un calcul socio-économique, on doit prendre les valeurs qui sont inscrites dans le rapport Lebeg, notamment en ce qui concerne la valeur du temps et la valeur du taux d'actualisation. J'en parlerai un tout petit peu après. Ensuite, on va dire au milieu des années 2000, les préoccupations sont grandissantes vers les questions environnementales. Émile Quinet, professeur à l'École des Ponts, si je ne me trompe, a produit un rapport sur la valeur tutélaire du carbone. Donc ceux qui sont intéressés par la question de la valorisation du carbone, à ce jour, en français, c'est une très bonne synthèse. Et il y a eu un rapport sur la biodiversité, la valorisation de la biodiversité, un autre sur la prise en compte du risque. Donc ça, c'est également une question très importante dès lors que vous pensez au réchauffement climatique. Et tout récemment, alors ça, si vraiment je peux vous conseiller une seule lecture, c'est le rapport également présidé par Émile Quinet, qui a été publié en septembre, je crois, de l'année 2013, et qui est complètement disponible en ligne sur le site du Commissariat général à la stratégie et à la prospective. Et donc ça, je vous le conseille vivement, pour la simple et bonne raison que, un, ça reprend toutes les valeurs de référence dont vous pourrez avoir besoin un jour ou l'autre, et de deux, c'est relativement bien détaillé sur les procédures à suivre pour faire un bon calcul socio-économique. Et de trois, c'est fort probable que ce rapport soit bientôt, le contenu de ce rapport soit bientôt légiféré et se substitue à l'instruction cadre de 2005. Donc si vous voulez être, on va dire, à la mode, c'est le dernier rapport qu'il faut regarder. Le slide passe pas complètement. Bon, ouais. Les grands principes de l'évaluation socio-économique. Donc, en économie, on est un peu bête, on est très méchant, on passe tout sous une forme monétaire. Donc des fois, ça a ses limites, je suis d'accord avec vous. Mais l'idée, c'est très simple, comme son nom l'indique, ça consiste à comparer les coûts et les bénéfices qu'on va synthétiser sous une forme monétaire pour savoir si le projet génère de la richesse pour la société ou non. Une manière un peu plus précise de dire cela, c'est qu'on va s'intéresser à la variation du surplus économique des différents agents concernés par les projets. Est-ce que, quand je parle de variation de surplus économique, c'est clair pour tout le monde ce qu'est un surplus économique ? Pas du tout, et c'est trop complexe. Donc j'en parlerai un tout petit peu après à l'aide d'un graphique. Vous verrez, c'est assez simple à comprendre. Mais ce qui est important, c'est qu'on va calculer la variation de ce surplus économique pour tous les agents. Donc déjà, il faut avoir une idée de qui sont les agents concernés par le projet en question. Donc bien souvent, ça va être les voyageurs, parce que bien souvent, c'est quand même pour eux qu'on réalise une infrastructure de transport, mais également les opérateurs privés, voire publics, qui ont en charge la gestion de l'infrastructure. Donc là, c'est plutôt vous que ça concerne, si je puis dire. Et enfin, la puissance publique, qui dans pas mal de cas finance l'infrastructure, mais également, on verra tout à l'heure, qu'existe ce qu'on appelle des externalités. C'est clair pour tout le monde si je parle d'externalité ? Autrement, oui, non ? Bon, il y a certains qui me disent oui, donc on va dire que oui. Une externalité, c'est dès lors que le projet va avoir une conséquence sur des tiers, des personnes qui ne sont pas directement liées au projet. Autrement dit, vous avez une rocade autoroutière, les automobilistes sont concernés par la rocade, mais également ceux qui habitent autour de la rocade. Eux, ils vont faire partie, on va dire, dans le solde, côté externalité. Donc, pour tous ces agents, on va calculer la variation de surplus économique. Et vu que ces infrastructures de transport, bien souvent, ont une durée de vie relativement longue, on va actualiser les variations de surplus économique sur la durée de vie du projet. Idem, est-ce que vous avez... Oui, là, je pense que l'actualisation, pour le coup, vous savez tous ce que ça veut dire. Si vous avez le choix à faire entre 1 euro aujourd'hui et 1 euro demain...
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, voilà. Bon, c'est bon, vous savez tout ce que c'est. Ça dépend du risque, on est d'accord. Bon, ceci étant dit, l'idée de l'analyse coût-bénéfice, c'est de produire une batterie d'indicateurs de rentabilité socio-économique. Ces indicateurs peuvent être vus comme la synthèse des effets générés par l'infrastructure. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces indicateurs doivent être produits ex ante, l'idée étant de sélectionner quel est le bon projet à faire, ou alors de hiérarchiser dans le temps l'ordonnancement des projets à réaliser, mais également ex poste. Alors je peux me tromper, mais pour moi, la vraie utilité de faire du calcul ex poste, c'est pour guider, explorer le passé pour mieux guider le futur, apprendre des erreurs. Mais je peux me tromper. Comme je vous le disais, c'est un réel outil d'aide à la décision publique. C'est obligatoire depuis la LOTI. Et ce qui est important, c'est que ça permet une réelle... Normalement, quand c'est bien fait, on compare différents projets. Et c'est parce que tel projet présente un meilleur indicateur de rentabilité socio-économique qu'on va le retenir plutôt qu'un autre. Toutefois, c'est un exercice loin d'être parfait qui est, il comporte un certain nombre de défauts que je vais vous lister dans un instant. Avant cela, très rapidement, les indicateurs. Donc ce matin, je pense que vous avez entendu parler de la valeur actualisée nette. Donc en fait, on devrait dire la valeur actualisée nette du solde des effets générés par le projet. D'accord ? Cette VAN se compose du solde entre les bénéfices et les coûts.
Là, vous êtes sur la vanne socio-économique.
Oui. Ouais. Mais, au final, mais c'est une bonne question. La vraie différence entre une vanne financière et une vanne socio-économique, c'est que tu vas intégrer des éléments qui n'apparaissent pas normalement dans le bilan stricto sensu d'un opérateur privé. Les externalités, par exemple, et le financement public si toi, tu ne t'intéresses pas à l'incidence des subventions sur ton résultat d'exploitation. Donc, la vanne, c'est le solde entre les bénéfices et les coûts. On a dit, c'est actualisé. Autrement dit, vous devez prendre en compte un taux d'actualisation R. Alors là, vous allez me dire, mais n'apparaît pas l'investissement initial. Ben si, pour la simple et bonne raison qu'en fait, regardez les indices, NI, c'est l'année de début des investissements. Donc en fait, on va prendre en compte, imaginez que vous mettez 4 ans à construire l'infrastructure, les années 1, 2, 3, 4, c'est les années d'investissement initiaux. En année 5, vous commencez à mesurer les effets produits par l'infrastructure, puisqu'elle est livrée qu'en année 5. D'accord ? Donc il faut faire attention à ces formules qui, des fois, peuvent faire plus peur qu'autre chose. Donc, l'idée, vous avez l'investissement initial, vous avez la chronique du solde annuel, la différence entre les bénéfices et les coûts, et à la fin de la durée de vie, imaginons que vous avez une infrastructure dont la durée de vie, c'est 20 ans, et bien la 21e année peut exister ce qu'on appelle une valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est quoi ? C'est la valeur de marché, théoriquement. Si Deco, du jour au lendemain, en 2017, quand Vélib sera fini, décide, et si les propriétaires, ce qu'on ne sait pas vraiment dans le contrat liant Deco à la ville de Paris, mais imaginons que ce soit Deco le propriétaire des infrastructures Vélib, il pourrait très bien être en droit de tout démonter et de les revendre pour que ça aille dans une autre ville. Il le vendra du montant de la valeur résiduelle. D'accord ? Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la valeur résiduelle, bah, c'est également une valeur actualisée. Pourquoi ? Bah, parce que c'est la valeur aujourd'hui de quelque chose dans N plus je ne sais pas combien d'années. Mais du coup, ce n'est pas 1 euro tout de suite. Un paramètre très important, c'est le taux d'actualisation. Depuis donc, le rapport Kinney dont je vous parlais tout à l'heure, le taux d'actualisation à prendre en compte, c'est 4,5%. Dans ces 4,5%, il y a un taux sans risque, 2,5%, qui est majoré de 2% pour intégrer les risques. Et c'est souvent important d'intégrer le risque parce que quand vous raisonnez avec des projets qui ont une durée de vie de 30, 40, 50 ans, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Donc autant prendre en compte le risque. Oui.
Ce taux-là, il est valable sur quel type de projet ? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement les projets publics, parapublics ? Est-ce que c'est aussi valable pour la vanne dans les évaluations financières et évaluations socio-économiques ?
Donc tu parles d'une entreprise privée ?
Ouais.
Généralement, alors le taux de rendement interne, en fait, c'est le minimum de rentabilité que toi, opérateur, soit public, soit privé, tu es en attente de retrouver. L'État, on estime que son taux de rendement, c'est 4,5%.
D'accord.
Le secteur privé, bien souvent, il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, dans le cadre des PPP transport. L'opérateur privé, pour être engagé dans un PPP transport, bien souvent, il demande 12%. Donc, autrement dit, il ne prend pas le même taux d'actualisation. Donc là, c'est public. Quand je dis 4,5%, c'est plutôt ce que demande la puissance publique.
Ah.
Là, on en arrive à l'histoire même de l'évaluation socio-économique. Je vous ai mentionné tout à l'heure le BEG 2005. Avant le BEG, le taux d'actualisation était de 8%. Le BEG dit, on descend à 4%. Et j'allais en parler juste après. Mais oui. Et Kinney dit, Kinney étant le dernier rapport, 4,5%. Donc 8%, c'est une très vieille valeur. J'anticipe un petit peu sur un de mes slides. Une conséquence directe du rapport le BEG. Avant, on demandait 8%, maintenant, on demande 4%. Ben, il se passe quoi ? Il y a bien plus de projets qui deviennent éligibles. Bon, maintenant, 4,5, ça dégage un tout petit peu moins. Mais ça, encore une fois, ça dépend si vous intégrez le risque ou non. Un tout petit peu. Alors, où en étais-je ? Bon, l'idée est bonne. Vous avez toutes les infos pour calculer votre vanne. Si la vanne est positive, le projet est rentable pour la société. Mais dans le meilleur des cas, comme je vous l'ai dit, on se sert de l'analyse coût-bénéfice pour comparer différents projets. Donc, autrement dit, vous calculez la vanne pour deux projets et vous sélectionnerez celui qui a la vanne la plus importante. quelque chose qui est assez important, et là, pour le coup, les opérateurs privés n'ont pas à le prendre en compte. C'est que dans les bénéfices moins les coûts, eh bien, vous avez bien souvent des dépenses ou des recettes publiques. Si on suit les règles stricto sensu du calcul socio-économique, il faut appliquer à toute variation de finances publiques un coût d'opportunité des fonds publics. C'est quoi le coût d'opportunité des fonds publics ? Eh bien, pour faire fonctionner l'État, pour qu'on ait les hôpitaux, le système éducatif, ainsi de suite, il faut prélever des taxes. D'accord ? Quand vous prélevez des taxes, en fait, vous changez le choix relatif des individus. Pourquoi ? Parce que le système de taxation, malheureusement, on n'en est pas encore là, tout du moins, on n'arrive pas à l'individualiser. On n'arrive pas à prélever exactement le montant d'impôt que tu serais prêt à payer pour ta santé ou ton éducation. On est au taux moyen. Et du coup, quand on raisonne au taux moyen, bah, certains individus se retrouvent lésés. Ils payent peut-être un peu trop par rapport à ce qu'ils voudraient vraiment consommer en santé, en éducation, et ainsi de suite. Et donc, entre guillemets, le coût d'opportunité des fonds publics sert à décrire cette distorsion dans les choix individuels. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous rappeler vraiment de tout cela, mais juste, ce qui est important, c'est que quand vous allez calculer les variations de finances publiques, il faut toujours penser à appliquer ce coût d'opportunité des fonds publics. Et c'est très important pour la simple bonne raison, on va le voir après, c'est que bien souvent, il est de l'ordre de 25 à 30%. Autrement dit, 1 euro dépensé par l'État, ça équivaudrait à 1,3 euros dépensé dans le privé. Donc vous voyez que tout de suite, ça peut changer foncièrement les résultats. Tu avais une question ?
Oui, c'était juste pour savoir si dans le coût d'opportunité des fonds publics, on comptait les investissements qui auraient pu être réalisés avec cette somme si elle n'avait pas été allouée à un projet spécifique. Typiquement, est-ce qu'on compte le coût d'opportunité, par exemple, de ne pas avoir réalisé un hôpital pour faire une SGV à l'euros ?
Le calcul socio-économique te dirait que si le rendement de l'hôpital était supérieur au rendement de la LGV, tu n'aurais pas dû financer la LGV. C'est bête et méchant, mais ouais. Non, vraiment, normalement, le coût d'opportunité des fonds publics, c'est plus pour, comme je te dis, la distorsion dans les choix individuels. Après, je vous épargne les détails, mais il existe un deuxième paramètre qui s'appelle le prix fictif de rareté des fonds publics. Ça dit juste que prélever un euro public en période de crise, où déjà la contrainte budgétaire de tout le monde est plus forte, bah ça vaut plus que prélever un euro quand l'économie va bien. Okay ? Donc en fait, là j'anticipe un petit peu, mais actuellement le coût d'opportunité des fonds publics, stricto sensu, c'est 20%, et on rajoute 5% pour le prix fictif de rareté des fonds publics. Si bien qu'on est à 1,25. Okay ? Ce que je veux juste que vous reteniez, c'est vraiment ce paramètre, bien souvent, on ne le retrouve jamais dans les calculs. Et vous comprenez qu'un investissement financé par les deniers publics, si vous prenez 100 ou 130, ça peut foncièrement changer le résultat. Ok ? Je te vois dubitatif.
Oui, je comprends pas la mécanique qui fait que finalement, l'argent public est moins efficace que l'argent privé, c'est ça ?
L'idée, pour le dire simplement, c'est ça l'idée. Ouais.
On a eu d'autres explications, une notion de c'est la même, je ne sais pas si elle est proche, qui était de dire qu'il y avait aussi dans l'investissement public des modes d'investissement qui n'étaient pas toujours optimisés parce qu'ils étaient parfois guidés par des enjeux qui n'étaient pas des enjeux purement économiques. Est-ce que les deux notions se rejoignent ou pas ? Parce que j'ai du mal à comprendre comment l'inégalité au niveau du prélèvement d'impôts qui se retrouve a priori dans les deux sens, donc devrait être moyenné sur une forme de péréquation entre celui qui paye moins et celui qui paye plus que ce qu'il est prêt à payer, permet d'avoir une augmentation, plutôt une diminution d'efficacité de l'ordre de 20%. Enfin, c'est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que l'argent public est moins bien investi, enfin, est investi sur des critères non économiques une bonne partie du temps.
Ça, c'est... Bon. Tout ce que je raconte, c'est de l'économie relativement normative, telle que ça devrait être, et dans le cadre d'un despote bienveillant. Ce que tu racontes, c'est, à mon avis, on ne peut plus justifier, mais on est plus dans le domaine de l'économie positive, telle que c'est peut-être, et probablement, surtout dans les choix d'infrastructure. Donc, je vais botter en touche, je suis désolé. On a cette idée, et mine de rien, c'est vrai que il faut pas faire de généralité, mais dans pas mal de secteurs, la pression concurrentielle auquel doit faire face le secteur privé l'amène à être plus efficace. Et ce qu'on appelle par efficace, c'est produire beaucoup à niveau de dépenses données. Alors, bien évidemment, il faut faire attention, c'est pas vrai pour tout. Et c'est en ça que les économistes sont bêtes, méchants et libéraux. Mais disons que ça traduit ça, cette idée. Je suis désolé, je fais une réponse de Normand, étant moi-même Normand, je m'en sors toujours comme ça, mais... Bon, mais là, ce que tu disais, c'était plus l'économie positive. Ce qu'on fait là, c'est normatif. Je pourrais vous donner une petite anecdote, j'ai parlé tout à l'heure du tramway. Le tramway, le calcul socio-économique était derrière le choix de mettre le tramway, c'était tout sauf quelque chose de bien fait. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à un moment ou un autre, il y a eu des coups de téléphone qui ont été passés entre le ministère de l'Équipement, la ville de Paris ou je ne sais trop rien, pour dire « s'il te plaît, fais-moi une belle feuille de calcul qui me vende mon projet. On arrive à ce que tu racontes. » Mais bon, voilà. On fait dans le meilleur des mondes, ça devrait être comme ça. Deuxième grand indicateur après la vanne. Donc le taux de rendement interne. Le taux de rendement interne, c'est le taux d'actualisation qui annule la vanne, autrement dit, qui égalise l'investissement initial au flux actualisé des bénéfices moins les coûts. OK ? La règle, c'est un peu la contrepartie de ce qu'on avait vu avant. Avant, c'était 6 vannes positives, le projet est plutôt bon et on choisit celui qui est la vanne la plus importante. Là, c'est si le taux de rendement interne est supérieur au taux d'actualisation utilisé, le projet est rentable. Il crée plus que le minimum demandé. Et on choisira le projet qui a le taux de rendement interne le plus important. Donc là, tu vois, ta question a un peu anticipé mon slide. Avant 2005, le taux d'actualisation était de 8%. Il est passé à 4%, du coup, bien plus de projets éligibles. Deuxième chose, dès que la vanne est négative, on ne peut pas calculer le taux de rendement interne. Ça, c'est mathématique. Bon. Après ces deux grands indicateurs, en existe deux, trois autres. Celui qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, notamment parce que certains professeurs au laboratoire d'économie de Lyon ont essayé de le mettre en avant, c'est le ratio VAN sur euro public investi. Vous pouvez très bien produire ce genre de ratio. Et là, vous sélectionnez le projet qui a le ratio VAN sur euro public investi, le ratio le supérieur. Pourquoi ? Parce qu'on crée plus de richesses pour un montant donné de dépenses publiques. Dernier indicateur qu'on peut utiliser, je le présenterai rapidement tout à l'heure, c'est que vous rapportez les bénéfices annuels, juste d'une année, par rapport à l'investissement initial que vous annualisez. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous avez un investissement qui a coûté 100 millions d'euros et qui a une durée de vie de 10 ans. Votre dénominateur, ce sera 10, 100 divisé par 10. Et vous faites le ratio entre les bénéfices produits pour un an divisé par 10. OK ? Ça, c'est plutôt utile quand vous n'êtes pas en mesure, notamment sur vos calculs de comptable, de dresser une actualisation avec une chronique en intégrant tous les taux d'actualisation. Et c'est un premier indicateur qui n'est pas trop mal. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ACB... Dans le meilleur des mondes, normatif des économistes, ça nous donne des indications sur quel projet retenir. Mais il existe pas mal de défauts. Le plus évident, c'est que tous les effets qui vont être produits par une infrastructure de transport ne sont pas forcément monétarisables. Vous n'arriverez pas à leur donner une expression monétaire. Et donc là, la biodiversité, par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure le rapport Chevassu-Louis, je crois, ils arrivaient à la conclusion que c'est très dur de donner une valeur monétaire à la biodiversité. Idem pour les effets spatiaux. Ce que j'appelle pour les effets spatiaux, c'est vous introduisez une autoroute, qu'est-ce qui va se passer en termes d'évolution de la population, d'évolution des emplois ? Et ça, en fait, ça va dépendre de quel côté, de quel bout de la route vous allez étudier. Et du coup, c'est très dur de produire un indicateur monétaire synthétisant les faits. Donc dans ce cas-là, l'analyse coût-bénéfice, ça confrontera un premier problème. Deuxième grand problème, ça c'est plus mon avis personnel, mais bon, tous les calculs qu'on fait, on a tendance à, en tout cas ça c'est mon humble avis, à donner trop d'importance au temps. Quand vous prenez plein d'infrastructures de transport, vous allez regarder le détail de quels sont les coûts et les bénéfices, vous verrez que les gains de temps que génère une infrastructure de transport, ça mange la feuille. C'est 90% des bénéfices proviennent des gains de temps. Donc soit on donne trop d'importance au temps, soit on donne trop peu d'importance à l'environnement. Ça, c'est une autre question. Mais là, comprenez juste qu'il existe un énorme, un écart gigantesque entre ce que les économistes racontent sur ces questions-là et les projets tels que les politiques vont vous les vendre en disant « c'est bon pour l'environnement ». Si vous allez regarder dans le détail du calcul, vous n'arriverez jamais à trouver aucun projet d'infrastructure de transport qui soit défendable au regard des bénéfices environnementaux qu'ils vont générer. Soit l'investissement initial, soit les variations des temps de transport, ça vous mangera toujours le résultat.
Est-ce que c'est lié à votre premier point qui était du fait de dire qu'on peut difficilement quantifier?
Tout à fait.
Et donc plutôt que de se dire, oh, tiens, on va donner une valeur aléatoire, on ne stabilise pas.
Bien sûr, oui. Le meilleur des débats, là, je m'écarterai beaucoup trop de mes propos, mais vous allez regarder ce qui s'est raconté. Vous vous souvenez du rapport Stern en 2006 sur la valorisation du CO2? Oui, non? Bon. En gros, vu qu'on s'intéresse à des dégâts qui vont se produire dans 100 ans, la question c'est mais comment on actualise, comment on pondère l'incertitude liée au futur? Stern, il produisait 25 euros la tonne de CO2 en disant, bon, le coût de la tonne, c'est le coût de l'inaction, d'une certaine manière. C'est opposé à Stern, un autre économiste américain, alors Stern est anglais, mais un américain qui s'appelle Nordhaus, qui lui disait, mais non, 25 euros, c'est bien trop important. Lui, il proposait un truc qui était plus l'ordre de 5 euros. La différence entre les deux, c'était quoi? C'était le taux d'actualisation qu'ils utilisaient. Donc ça montre bien, même sur cette question-là, de la valorisation de l'environnement, les économistes, au final, ne sont pas forcément tous très avancés. Il y a énormément de débats, mais de manière générale, la valeur du temps, sachez juste ça, quand vous allez produire ce genre de calcul, ça mange tout, quoi. Troisième limite, si les calculs...
Oui. Pour la valorisation de l'environnement, il y avait quelque chose qui avait été fait sur la LGV Raron, je crois, ou la LGV, c'est plus de validation d'un bilan carbone comparé entre les émissions de carbone qui ont été générées par du transport routier classique et le report qu'on a fait sur
la LGV. Non, mais ça, justement, ça fait typiquement partie des effets que tu vas intégrer dans ton bilan loti de la LGVS. Pas de problème. Mais ce que je dis juste, c'est qu'après, tu compares ces gains environnementaux avec les gains de temps que procure la LGVS, tu verras que le ratio, il est de 1 à je ne sais combien, mais c'est sûr. Je mets ma main à couper et je sais qu'il est disponible depuis peu sur le site de RFF, le bilan loti de la LGVS. Donc si ça t'intéresse ce soir ou même maintenant, tu peux regarder. Je donne ma main à couper vraiment que les gains de temps sont d'un ratio de 1 à... Allez, peut-être 10, c'est trop fort, mais vraiment... C'est incomparable par rapport au gain de CO2. Mais oui, après on y arrive. Mais on y arrive en faisant quoi? En disant de manière arbitraire, allez, Kiné nous dit que la tonne de CO2 c'est 32 euros en 2010, donc j'économise 10 tonnes, 10 fois 32. D'accord? Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour le LGV. Hein. Troisième limite, si tous les calculs, et si entre guillemets on était dans un monde certain, mais si tous les calculs étaient bien faits, on ne devrait pas observer de telles différences entre les indicateurs produits ex ante et les indicateurs produits ex post. Je vais vous donner un exemple juste après, mais c'est généralement, on trouve toujours de fortes différences entre les indicateurs ex ante et ex post. Oui ?
Juste une question sur votre second point, sur l'importance de la valeur du temps donnant ce calcul économique. Est-ce que ce ne serait pas justement de la faute des économistes qui ont dû surpondérer ce critère-là ? Parce que vous dites que ça date des années 1900.
C'est fort probable. Oui, mais après, maintenant, il y a de plus en plus d'économistes de l'environnement aussi. Donc, eux, ils auraient tout intérêt à produire des valeurs du CO2 ou de l'environnement bien supérieures pour remonter ça. Le multicritère. Ah, mais c'est pour ça que je le mets dans les limites. Hein.
Ouais.
Et ça, c'est mon avis personnel.
C'est pas votre avis. Enfin, c'est l'avis de plusieurs économistes.
Mais il y a plein d'économistes qui vont dire les valeurs du temps, on les trouve. Vous savez comment on fait pour apprécier bien souvent une valeur du temps? C'est très simple. Vous... Non, ouais, alors soit il y a les enquêtes, soit vous avez deux itinéraires, un qui va vite mais qui est payant, une autoroute, soit un qui va un peu plus lentement mais qui est gratuit. Vous regardez la différence entre les deux, ça vous permet de voir, vu que le temps c'est de l'argent, combien les individus valorisent leur temps. Bon, voilà. Et donc on préfère faire ça parce que c'est pas déclaré, c'est observé. On observe vraiment les comportements. Mais c'est comme ça que les valeurs du temps arrivent. Le problème de l'environnement, c'est que là, ça relève plus justement sur du déclaratif. Combien vous êtes prêt à payer pour qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique? Là, ça peut être un peu plus bancal.
On se rend compte que l'effet pervers, c'est à force de surpondérer les valeurs du temps, c'est tellement
énorme. Oui. Et c'est pour ça que dans les effets qu'on n'arrive pas à monétariser, c'est la fracture paysagère liée à l'étalement urbain. Il y a des économistes qui essayent de produire une valeur du paysage, pour prendre ça en compte. Oui.
Tous les frais qui sont associés à la dépollution et à la mise aux normes d'environnement, est-ce que c'est des choses qui font partie des effets de biodiversité ou c'est encore différent, c'est moins...
Là, c'est plus environnement. La biodiversité, c'est vraiment réussir à maintenir le stock d'espèces animalières existantes. La faune ou la flore, pas que animalière. Là, ce dont tu parles, ça nous touche plus nous. Je ne sais pas.
Je sais qu'il y a le problème des calculs économiques qui mettaient comme valeur ajoutée des systèmes de dépollution, alors qu'on en revient finalement uniquement à l'état initial sans faire son valeur ajoutée.
Oui. Non, la biodiversité, c'est vraiment plus, comme je dis, sur la faune, la diversité de la faune et la flore. Bon, il faut que j'avance, sinon c'est clair qu'on va pas. Alors là, c'est plus vous que ça concerne. Bien souvent, c'est vous. Je dis vous, désolé, j'imagine que vous travaillez pour des opérateurs de transport ferroviaire.
Quelques-uns,
bon. Souvent, c'est le maître d'œuvre qui doit produire le bilan loti. Bon, moi, étant chercheur, je prêche pour ma paroisse. Je préférais que ce soit nous, chercheurs indépendants, qui nous retrouvions à faire ce genre de calcul, ou tout du moins à les confronter avec ceux que vous produirez. Des fois, il faut vraiment être conscient que certaines analyses coûts-bénéfices, vu qu'elles sont produites par les parties prenantes, il y a un biais clair dans le résultat. D'accord? Donc ça, désolé, c'est plus ma casquette de chercheur qui me fait dire ça, mais si vous voulez bien vendre votre projet, vous avez tout intérêt à le faire le plus neutre et objectif possible aussi. Parce que c'est très facile de critiquer après certains projets. En pratique, je vous l'ai dit, normalement, on compare différents projets et on retient celui qui a la vanne ou le tri supérieur. Ça se passe très rarement comme ça. Souvent, on évalue un projet et on ne regarde pas le deuxième projet concurrent. D'accord ? Je reparle du tramway des maréchaux. Ben, on a juste calculé le bilan socio-éco sur les maréchaux. Et c'est des associations de riverains qui ont fait le même travail sur la petite ceinture ferrée. Dans le meilleur des mondes, c'était les mêmes personnes qui auraient dû produire le calcul pour les deux options. D'accord ? Mis à part, bon, si on reste sur le cas du tramway, là, mis à part la connexion à la gare qui peut être un tout petit peu plus compliquée pour la petite ceinture ferrée, les maréchaux et la petite ceinture ferrée sont distantes à peine 100 mètres.
Non, mais
donc dans ce cas-là, c'est vraiment substituant. Après, oui, non, je suis d'accord. Non. Non, ça, on est d'accord. Non, bien évidemment, il faut que ça reste comparable. La grande difficulté, c'est de trouver le scénario de référence, le contrefactuel. Qu'est-ce qui serait passé en l'absence d'investissement? Ça, c'est vraiment, je me permets d'insister sur ce point, c'est bien souvent... Oui, mais alors, scénario de référence, si on prend le trafic actuel, ok, pourquoi pas? Moi, par exemple, je vous ai dit, j'avais fait ma thèse sur les transports à Paris. Si je m'intéressais juste à ce qui se passait depuis l'élection de Delanoë et ce que j'ai observé, moi, par la suite, bah, je faisais une erreur. Pourquoi? Bah, parce que depuis le milieu des années 90, le trafic automobile commençait à baisser. Donc, vous voyez, l'histoire du contrefactuel, c'est quelque chose d'assez sensible. Oui.
Comment on fait, par exemple, sur Paris, en ce moment, avec le Grand Paris Express, si on veut faire des travaux sur les RER, ça veut dire qu'on intégrer le Grand Paris Express, c'est pas, à la limite, je vois même pas comment c'est faisable, parce qu'on travaille sur des hypothèses d'un autre projet.
Alors, la question, c'est jusqu'à quel stade c'est des hypothèses où, maintenant, on est sûr ou non que le projet va être financé? Non, oui, non, mais ça... En effet, tu rajoutes une couche de complexité dans l'analyse. Dans le cas du Grand Paris, on ne sait toujours pas vraiment... On commence à connaître le choix des stations, on commence à avoir des projections sur le volume d'utilisation. Mais c'est pas financé, ouais.
Et du coup, quand ils font les schémas directeurs DRR, ils prennent en compte comme s'ils allaient en parler exprès.
Et bien, c'est pour ça que normalement, il te faudra un scénario avec et un scénario sans. Et tu fais la différence. Oui, oui, c'est ça. Normalement, on fait vraiment comme ça. Enfin, dernière limite, bah, c'est la longue durée de vie des projets. Quand vous faites des projets à l'horizon de 50, 100 ans, vous comprenez bien qu'il arrive un grand nombre d'incertitudes qui peuvent venir biaiser vos calculs. Donc, je vous parlais des différences entre les bilans ex post et ex ante. Juste là, très rapidement, regardez, c'est le bilan loti qui a été produit pour le viaduc de Millau plus l'interconnexion avec l'autoroute au-dessus. Le coût de construction a été sous-estimé de 25% dans le cadre du dossier d'utilité publique. On a par contre surestimé de 4% le coût d'exploitation. Là où il y a une vraie différence, et ce matin je crois que vous avez parlé des modèles de trafic, il y a eu 25% de sous-estimation du trafic. C'est assez conséquent, 25%. Et par contre, c'est ça qui est assez... oui et non, en fait. Il y a eu une surestimation de la baisse des accidents. Bon, bref, on va éviter l'inventaire à Prévert. Allez juste en bas, regardez la différence dans la vanne ex-ante et ex-post. Ex-ante, tel que c'était présenté dans le dossier d'utilité publique, on avait une vanne de 951 millions. Autrement dit, projet ultra rentable pour la société avec un taux de rendement interne de 25%. La vérité ex-post reste favorable au projet, puisqu'on a une vanne positive, 370 millions d'euros, et en plus, on a un tri relativement élevé, 12,6 millions. Ok. Donc, on ne va pas remettre complètement en cause le projet, mais par contre, ce qu'on peut remettre en cause, c'est le calcul ex-ante, puisque vous voyez bien que les résultats sont du simple au triple, quasiment, si on considère la vanne, et au double, si on prend le taux de rendement interne. Bah, moi, je te dis. Non, mais je te dirais la meilleure des options. Si, bon. La meilleure des options, c'est de regarder justement quelle est l'erreur moyenne. C'est simple, hein. Mais tu regardes l'erreur moyenne, tu fais tourner ton modèle et quitte à majorer ton erreur moyenne. C'est un peu bête, hein. C'est bête et méchant. Mais, et encore une fois, tu joues sur des scénarios. Je dis, dans le cas où le trafic, c'est ça, le résultat, c'est ça. Dans le cas où, en fait, c'est un peu plus ou un peu moins, ça devient ça. Ça, c'est le premier effet. L'autre effet qui est très souvent mal estimé, c'est les coûts de construction des travaux. Si ça vous intéresse, il y a un super auteur, je ne sais plus s'il est norvégien ou danois, mais qui s'appelle Flivberg, et qui a fait un recensement de plein de projets de transport où il montre qu'en moyenne, c'est sous-estimé de 25 à 30% les coûts de construction. La fameuse expression « flamber des coûts », son article permet complètement l'illustrer. Et donc, dans ce cas-là, on était clairement là, hein, le coût de construction sous-estimé de 25%. Ok, il faut que j'accélère un peu, pas mal de limites, donc on a essayé de dépasser l'analyse coût-bénéfice, et là, à ce niveau-là, ce qui s'est produit en France a pas mal suivi la tendance anglaise. Il faut savoir que c'est en Angleterre où vraiment l'analyse coût-bénéfice a été très fortement remise en cause, et du coup l'analyse multicritère s'est développée. Les principes généraux de l'analyse multicritère, bah, c'est justement d'intégrer notamment l'environnement, mais toutes les dimensions à proprement parler, associer un projet qu'on ne va pas être en mesure de monétariser. C'est une approche beaucoup plus qualitative. Mais la vraie force de l'analyse multicritère, c'est que c'est une approche beaucoup plus participative. Vous pouvez intégrer plus facilement les associations de riverains, et de manière générale, toutes les parties prenantes au projet. Si bien que c'est bien plus simple d'atteindre un consensus. Puisque la question du choix des investissements ne peut pas être pensée indépendamment de la question de l'acceptabilité sociale des investissements. Et donc, selon sa perspective, l'analyse multicritère, pardon, c'est plus facile d'arriver avec une approche qualitative, de montrer aux gens, bah voilà, l'effet sur l'environnement, c'est plutôt ci, plutôt ça, que de dire, c'est X millions d'euros. D'accord ? Et donc, c'est vrai que c'est une manière peut-être plus intelligente de vendre les projets, notamment auprès des populations concernées. Après, il y a malgré tout des limites. Si on ne peut pas agréger, trouver une manière objective de faire la somme de tous les différents critères, là, c'est dur de comparer tous les projets. Si on arrive à les agréger, se pose toujours la question du poids à accorder à tel ou à tel critère. Et donc là, c'est plutôt, ça relève plus de l'arbitrage politique, bien souvent, de dire, bon, bah, en fait, on n'écoute pas les économistes, nous, c'est l'environnement qui nous importe le plus, donc je donne plus d'importance à mon critère environnemental. Voilà. Donc, c'est une manière de faire, mais ça peut être plus discrétionnaire. Et là, j'en ai pas trop parlé, mais je vous disais qu'une des grandes forces de l'analyse multicritère, c'est de pouvoir faire participer le public. Sachez qu'en sociologie, se sont développés pas mal de travaux pour montrer que la prise de parole, juste dans les réunions publiques, c'est très hétérogène. Je vous donne juste... Tout le monde n'a pas le même pouvoir de prendre la parole et du coup d'exprimer son opinion. Je vous donne un exemple tout bête. Sachez que Bertrand Delanoë, c'est pas forcément le maire qui a lancé le plus de projets d'urbanisme. Il en a lancé pas mal. Mais par contre, c'est le maire qui a fait face à plus de recours devant les tribunaux pour bloquer les projets d'urbanisme qu'il essayait d'imposer. Pourquoi ? Parce que la population de Paris, sous sa mandature, mine de rien, a pas mal changé également. Et on est avec des CSP un peu plus, qui ont une capacité de mobilisation et de s'informer et d'aller devant les tribunaux supérieure à ce qu'on avait sous Tibéri et sous Chirac. C'est un exemple tout bête, mais ça montre bien aussi une des limites de l'analyse multicritère.
Oui, enfin, à contrario, l'exemple du TZN, fondamentalement, en Ile-de-France, ils ont fait pas mal de concertations. Le problème, quand on commence à demander de leur avis aux gens, c'est qu'on doit forcément les écouter. Donc, au bout d'un moment, quand on faisait ça en discret entre nous, c'était beaucoup plus facile de faire passer un projet et de le proposer aux gens.
Mais...
Je ne dis pas que c'est mieux, mais vous parliez du dictateur informé,
éclairé. Les coûts de coordination sont bien supérieurs, on est d'accord. Après, ça dépend si le critère final, c'est que le projet soit bien accueilli par la population, l'acceptabilité. Et sur les histoires des péages urbains, par exemple, à Stockholm, ils ont fait des référendums pour dire est-ce que oui ou non vous voulez le péage. Bon, de cette manière, ça légitime l'action. Après, est-ce que tu veux que derrière chaque manifestation, je te passe la parole juste après, tu aies une sorte de vote en disant c'est quel critère qu'on prend à ce... Ça pourrait être la meilleure manière, mais en effet, c'est...
Donc, c'est que l'évaluation socio-économique devait être faite par des chercheurs qui étaient informés. Si on demande son avis à... Je vais être élitiste, hein, c'est pas grave, à un monsieur dans la rue sur son avis sur la politique de défense française ou des domaines très spécifiques, comment est-ce qu'on peut savoir que finalement son avis n'est pas formé, motivé et à la conscience du bien public, ce que peuvent avoir les organismes indépendants par
rapport à... C'est l'éternelle question du dictateur dans la tour d'argent. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est là où, entre guillemets, l'analyse coût-bénéfice ne pose pas ce genre de questions. Ouais. Elle t'agrège tout sous un... Calcul. Oui.
J'allais dire, mais les deux méthodologies n'ont pas du tout la même finalité, parce que du coup, par exemple, la notion de comparaison entre une analyse multicritère et une autre analyse multicritère, vu que les critères, a priori, dès qu'on va demander aux gens de s'exprimer, les premières choses qu'ils vont vouloir modifier, c'est les critères, on ne pourra jamais avoir deux fois la même grille de critères. Donc, chaque projet, finalement, c'est un outil qui est fantastique, sans doute, en communication. Qui semble très coûteux aussi, parce que du coup, on va avoir des suggestions qui vont se cumuler et non pas s'arbitrer. Et au final, on n'arrive pas du tout au même outil. On a un outil qui est conclusif. Même si les critères, les indicateurs sont critiquables, ils sont conclusifs. On a des données comparables. Je suppose qu'avec l'analyse, enfin, je fais le parallèle avec d'autres méthodes qu'on a. Qui pourraient s'apparenter à une analyse multicritère, donc c'est subjectif, par construction, et du coup on ne peut pas être conclusif. On arrive peut-être à un projet qui marche, ce qui n'est pas étonnant, vu que tout le monde est d'accord, puisque tout le monde a été concerté et tout le monde a donné son avis, donc il y a un bon consensus, sauf que l'efficacité peut être très très distante du résultat finalement.
Je suis d'accord avec toi, juste, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est une chose. Que ce soit pour l'analyse multicritère ou l'analyse coût-bénéfice, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Donc toi, quand bien même tu restes dans le cadre du multicritère, mine de rien, ça ne sert à rien de faire du multicritère pour ton exemple de la LGV et de l'hôpital. C'est ce qui s'est fait avec le SNIT, c'est dans deux slides derrière, mais... bon. Très rapidement, il faut qu'on avance, sinon vous n'allez même pas pouvoir faire les calculs qui est la seule plus-value de ce cours. Alors bon, ce graphe, c'est juste pour vous montrer un peu formaliser l'analyse multicritère. Vous formulez les problèmes, vous identifiez les acteurs, qu'ils soient individuels ou collectifs, vous définissez vos différents critères. À chaque critère, vous essayez d'associer des indicateurs. Et la question, c'est est-ce que j'arrive ou non à agréger tous ces indicateurs à la fin ? Bien souvent, c'est impossible. Dans la pratique, ça ressemble un peu à ça. Donc là, si je ne me trompe, c'était le choix d'une infrastructure de transport routière près d'Orléans. Il y a deux tracés possibles, un qui passe par l'Est, peut-être pas l'A10, excusez-moi, je suis nul en géographie, c'est où ? L'A10, c'est vers Bordeaux. Ouais, donc je disais Orléans, à mon avis, je ne dois pas forcément... Bon, voilà, je crois bien que c'est vers Orléans. C'est une rocade, on a le choix entre le tracé Est, tracé Ouest. Différents critères, donc techniques, environnementaux, coûts. Au sein de ces différents critères, différentes dimensions, la géométrie, le terrassement, l'ouvrage d'art, le milieu physique, milieu naturel, milieu humain, paysage, etc. Pour chacune des deux variantes, il y a un code couleur assez simple. Vert, favorable. Rouge, très défavorable. Et ça vous permet un peu de comparer, tout du moins de guider le choix de quel tracé je vais retenir. Ok. Je suis désolé, je ne suis vraiment pas compétent d'analyse multiple critères. J'en ai jamais fait à proprement parler. Mais concrètement, ça, je l'ai issu d'un document du ministère de l'Environnement qui réfléchissait à comment faire pour améliorer les analyses multicritères.
C'est génial, parce qu'on met ça devant un élu, on lui a prémâché le travail, il a juste à choisir l'homme.
Oui, mais...
C'est très drôle.
C'est dur à pas dire que c'est pas subjectif, quand même.
Ah, mais bien sûr. C'est... Regarde. J'en ai parlé, discrétionnaire. Ça veut dire ça. Non, mais oui, c'est évidemment hautement subjectif. Et après, il y a toujours un écart. Et tu peux essayer de rendre ça... Si ça vous intéresse, cette question du multicritère, Pierre Franc, il est où ? DGTM. La DGTM est en train de produire, je crois, des sortes de documents de référence, mais peut-être que d'entre vous sont déjà au courant de ça. Le référentiel d'évaluation, où clairement, c'est proposer une bonne grille méthodologique pour conduire du multicritère. Et je ne sais pas s'ils l'ont publié, mais je crois que ça circule déjà. Et ça circule sous le manteau. Bon. Voilà. Mais disons que quand ça sera publié, ce sera le pendant du rapport Kiné pour l'analyse coût-bénéfice. Sachez qu'il y a un document préparation pour le multicritère. Ok. Bon, l'exemple, j'ai pas le temps de m'arrêter trop dessus, mais vous en avez tous entendu parler. L'analyse multicritère a été récemment mobilisée pour évaluer le schéma national des infrastructures de transport. Autrement dit, les projets de 63 infrastructures de transport qui avaient été pompeusement lancés par notre ancien président... Et la crise est passée par là, forcée à revoir complètement le programme, d'où la commission 21, présidée par le sénateur Duron, qui a repris, via l'analyse multicritère, les 63 projets. Et bon, vous êtes dans le ferroviaire, donc j'imagine que le résultat qui vous intéresse le plus, c'était globalement, il y a encore 2 à 3 projets de LGV qui vont être financés à très moyen terme. Non, et on finit ceux qui sont en cours, et il y en a un ou deux à moyen terme.
Il y a 2 milliards de réserves pour peut-être,
faire des choses, voilà. Mais globalement...
Il n'y a rien de dire.
C'est en cela que je disais que vous connaissez mieux que moi. Et donc du coup, ce que j'avais pu en comprendre, et c'est ce qui était ressorti aussi des assises du ferroviaire, c'est globalement, on stoppe les LGV et on investit plus dans l'amélioration du réseau existant, notamment avec les TET. Et ça a été validé par le rapport Duron et les multicritères qui étaient sous-jacents au rapport. Bon, pour résumer, je vais couper ce slide et on en passe au calcul. Donc, là, s'il vous plaît, je vais vous demander un peu plus, pas votre attention, mais je me répète, même si vous n'avez pas de PC, juste avec votre téléphone portable, les deux premiers exemples, vous pouvez les faire tout seul. Alors, il vous faut du brouillon, mais vous devez en avoir normalement. Donc, le premier exemple d'analyse coût-bénéfice, et vous verrez, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, au final. Parce que là, on ne va pas comparer deux projets, c'est juste l'automatisation de la ligne 1. Donc, vous êtes parisien? Oui, non? Pour la plupart? Oui. Vous devez tous être au courant que depuis, allez, 10-15 ans, la demande de métro et d'RER a augmenté bien plus vite que l'offre. Alors attention, la RATP et la SNCF ont mine de rien réussi à augmenter 10% l'offre sur la dernière décennie, ce qui n'est pas rien. Mais la demande ayant augmenté plus vite, on a eu de plus en plus de voyageurs entassés les uns sur les autres dans les wagons. On a une hausse de la densité à peu près de 10% entre 2000 et 2010. Et ça s'est traduit par un mécontentement croissant des usagers relayé dans les médias. Du coup, un besoin criant de rattraper le retard pris dans les capacités d'accueil. Et c'est dans cette logique qu'a été lancée fin décembre 2012 l'automatisation de la ligne 1. Donc, là, je vous demande votre attention. Quel est, selon vous, bon, c'est écrit au tableau, c'est un peu bête, mais on peut identifier trois grands effets de l'automatisation sur le bien-être, c'est dans un sens très large, des voyageurs, des usagers de la ligne 1. L'automatisation, tout d'abord, a augmenté la vitesse commerciale en train de 10% durant les heures de pointe et les heures creuses. Premier effet. Deuxième effet, la fréquence des trains durant les heures de pointe a été augmentée de 20%. Troisième effet, indirect celui-là, vu qu'on a également acheté des nouveaux wagons et qu'on a augmenté la fréquence des trains, si on suppose que la demande est constante, il se passe quoi? Ben pour les voyageurs dans les trains, il y a un peu moins de monde, donc il y a des gains de confort. Il y a une congestion moindre, avec la définition relativement restreinte de la congestion qui est la mienne. Ok? Donc là, concrètement, ce que j'attends de vous, c'est que je vais vous donner bientôt, ils sont sur les slides qui vous ont été fournis, des chiffres, et vous allez me produire le solde annuel de ces gains. D'accord?
Donc, là, on ne tient pas du tout compte des gains en termes de coût d'exploitation.
Alors, c'est une grande question. J'ai trouvé dans les locaux, la revue de presse de la SNCF, tout un article assez détaillé sur l'automatisation, vantant le fait qu'il n'y avait aucune incidence sur le nombre d'agents concernés.
Non, mais j'ai posé la question, ils ont été dispatchés, ou ils ont été promus, mais néanmoins, la RATP m'a dit qu'ils avaient autant financé, parce qu'en très peu d'années, ils avaient un retour sur investissement.
Ah oui, c'est 8 ans.
Bon, et ben c'est là où, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez accès à bien plus d'informations que je ne peux en avoir. Hein?
Personne n'a signé.
Non mais bon, moi, malheureusement...
C'était lors d'une visite...
Bon, ben là, vous arrivez pour finir cet exo, je dis quelles sont les limites, qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte. Concrètement, ça en fait partie. La pirouette que je fais dans mon article, je suis obligé d'en faire une, c'est de dire qu'il y a eu des accords avec les syndicats pour faire en sorte que le nombre d'employés restait le même. Donc, en coût d'exploitation, je fais l'hypothèse certainement fausse, mais que j'essaye de défendre, que ça n'a pas impacté.
Il y avait moins de matériel nécessaire, donc vous gagnez sur le matériel.
Il a fallu en acheter des nouveaux.
Oui, mais
après. Ils les ont redispatchés sur la ligne 4.
Et voilà. Ils en ont racheté moins que ce qu'ils ont envoyé sur la ligne 4.
Je fais du calcul bête et méchant avec pas mal d'approximations et je m'en excuse. On n'est pas là pour critiquer mon article, mais juste pour que vous fassiez quelques exemples là-dessus. Concrètement, ce que j'attends de vous, c'est, étant donné les trois effets de l'automatisation de la ligne 1, vous allez me calculer la variation du coût généralisé. C'est clair pour tout le monde si je parle de coût généralisé? C'est les dépenses monétaires et temporelles que les gens supportent pour leur mobilité. Donc, vous allez me calculer la variation du coût généralisé des utilisateurs de la ligne 1 suite à l'automatisation. La fonction de coût généralisé, je vous l'ai mis là. P, c'est le prix du ticket. Comme vous l'avez peut-être déjà compris, c'est pas du tout... On s'en fiche complètement dans ce cas-là, parce que l'automatisation n'a aucun effet là-dessus. Par contre, TA, c'est le temps d'attente sur les quais. Ça, je vous ai dit, quoi, tout à l'heure, qu'il y avait un changement de la fréquence. OK? Donc ça va bouger. Ça va bouger, puis vous allez multiplier par la valeur du temps d'attente. Qu'est-ce qui bouge également? Le temps dans les wagons. Ça bouge dans deux dimensions. Un, ça va plus vite. Et de deux, il y a un entassement moindre. D'accord? Donc, autrement dit, TV change. Et là, TMD, c'est une fonction qu'on appelle un coefficient de pénibilité. C'est une sorte de prime que vous appliquez à la valeur standard du temps de transport. Et ce coefficient de pénibilité permet de, bah, comme son nom l'indique, de prendre en compte la pénibilité du voyage due au fait qu'il y ait un entassement trop important dans les wagons. Donc, dans notre article, on s'est amusé à calibrer cette fonction du coefficient de pénibilité. C'est la deuxième équation, là. Vous voyez que le coefficient de pénibilité, dès lors qu'on est au-dessus de un voyageur par mètre carré, qui est à peu près le niveau à partir duquel les gens sont obligés d'être debout dans les wagons, c'est une fonction croissante de la densité, D. D'accord ? Et le coefficient qui vous intéresse, c'est 0,11. Donc là, maintenant, vous avez presque tous les éléments pour faire le calcul. Juste les quelques petites données nécessaires. Donc, la situation initiale, en termes de trafic, il y a 750 000 à peu près voyageurs quotidiens qu'on va supposer la moitié durant les heures pointes, l'autre moitié durant les heures creuses. La fréquence avant l'automatisation était 1 minute 45. Un métro toutes les 1 minute 45. Après l'automatisation, je vous ai dit que ça avait baissé de, je ne sais plus, 20%, 10%, je n'ai plus en tête exactement. Bon, bref, ça, normalement, faites-moi confiance, ça passe à 1 minute 25. Le temps en véhicule, donc ça provient de notre enquête de terrain. Les gens qu'on avait interrogés dans les lignes 1 passaient en moyenne 11,5 minutes. On les avait interrogés avant l'automatisation. Donc si on croit la hausse des vitesses en wagon de 20%, on tombe à 10 minutes. Ou c'était plutôt 10%. On tombe à... Vous avez toutes les infos sur les slides. Hein. Et la densité de voyageurs en wagon, si on suit le raisonnement probablement faux, mais bon, voilà, on passe de 3,5 à 2,9. Ensuite, la valeur du temps en véhicule, la valeur du temps d'attente, le coût d'opportunité des fonds publics, le taux d'actualisation et le nombre de jours ouvrés. Donc là, normalement, sur les 2-3 slides qui viennent que vous avez sous les yeux, vous devez être capable de me calculer. Pourquoi ce n'est pas tous les jours ? Bah parce que souvent, dans les calculs, on fait cette approximation qu'on ne s'intéresse qu'aux jours de semaine. Sur le week-end, on s'en moque, on a tout notre temps. Non, parce que les heures de pointe, bah les pointes, c'est surtout valable le matin. Pardon, dans les jours ouvrés. Donc c'est, la vraie raison, c'est ça. Une hypothèse importante, on fait l'hypothèse qu'il y aurait une valeur résiduelle nulle à l'horizon de 20 ans, en 2032. D'accord ? Donc là, si je vous donne 10 minutes, grand max, ce que j'aimerais, c'est que vous me fassiez de manière un peu séparée, vous me calculez les gains liés au temps d'attente, les gains liés au temps en véhicule durant les heures de pointe et les gains liés au temps en véhicule durant les heures creuses. Comme ça, vous aurez la somme de tous les gains annuels. Et après, vu que vous n'avez pas tous un PC, on ne va pas s'amuser à calculer la vanne. Je vais vous montrer très rapidement sur un tableur Excel que j'ai prévu. Mais vraiment, c'est juste pour vous montrer que, alors, après, vu vous aurez accès à plein de chiffres plus détaillés et plus précis, et vous connaîtrez mieux la réalité du terrain que moi, vous pourrez ajouter vos effets. Mais donc là, le gros du calcul, c'est comme ça que ça se passe. Et si je vous donne 10 minutes, je pense que vous devez avoir largement le temps de faire ce premier exercice. Et donc, c'est également valable pour les personnes qui nous suivent par Internet. Je vous propose qu'on passe à la correction, si ça vous va. Bon, juste première impression, est-ce que ça vous semble infaisable ? A priori, non. À plusieurs, non. Non, mais c'est... Bien évidemment, vous pourrez toujours raffiner ce genre de calcul quand vous serez vraiment amené à les faire. Mais je pense que cet exercice a en plus un but pédagogique pour vous montrer que ce n'est pas forcément très compliqué à faire faux. Surtout avoir une bonne idée des effets que vous essayez d'évaluer et des chiffres correspondant à ces effets.
En raisonnant sur les grosses moyennes.
Hein ?
En raisonnant sur des moyennes.
Oui. À un moment ou un autre, tu es obligé de faire des moyennes. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, ce qui était relativement plus simple, c'était de décomposer les gains de coûts généralisés selon trois éléments. Les gains d'attente durant les pointes, les gains de vitesse, de temps en véhicule durant les pointes et les gains en véhicule durant les creuses. Concernant les temps d'attente, on est passé d'une fréquence, j'avais dit, à 1,45 à toutes les 1 minute 25. Généralement, ce qu'on fait dans ce genre de cas, on suppose que les voyageurs arrivent de manière uniforme sur les quais. Et ça, c'est le grand avantage qu'on peut regarder juste le temps moyen. Si c'est uniforme, le pic de la distribution, il est au centre. Donc, on regarde 1 minute 45, ça fait 105 secondes. Autrement dit, ça faisait à peu près 53 secondes de temps d'attente moyen. On fait la même chose avec 1 minute 25, 85, donc 43 secondes. Autrement dit, par rapport aux deux situations, on a gagné 10 secondes en temps d'attente moyen. Ça ne semble pas grand-chose, ok, je vous l'accorde. Mais si c'est 10 secondes, et c'est là où il y a une faute sur les polycopiers, n'hésitez pas à la corriger. Là, il fallait multiplier par 1,5, puisque le coût d'opportunité du temps, généralement, quand on va voir les individus, on leur demande s'ils préfèrent rester un peu plus dans les wagons ou attendre un peu plus longtemps. En moyenne, ils ont tendance à montrer qu'ils préfèrent être dans le train. Autrement dit, le temps d'attente est plus coûteux pour les individus et généralement, c'est entre 50% ou 100%. Bref, là, il y a une faute sur le slide. Vous rajoutez multiplié par 1,5. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pourquoi j'ai divisé par 60? Parce que c'était un coût d'opportunité du temps à la minute. Là, on s'intéresse au nombre de secondes gagnées. Vous y appliquez le nombre de voyageurs des heures de pointe, 375 000 par jour, fois 300 jours ouvrés, et vous trouvez des économies de coûts généralisés de l'ordre de 6,5 millions d'euros. Oui. Parce que pendant les heures creuses, la fréquence n'a pas changé. Désolé, il y avait des petits pièges dans l'énoncé du... Alors, parce que la fréquence avant, c'était 1 minute 45, soit 105 secondes. D'accord ? Après, on suppose que les voyageurs arrivent de manière... Ça suit, l'arrivée des voyageurs sur les quais suit une distribution uniforme. Et ça, ça te donne l'avantage que tu peux prendre du coup comme temps d'attente moyen la moitié de 105 secondes. Autrement dit, ça ferait 52,5 secondes que j'arrondis à 53. OK ? Et donc, on fait exactement le même travail pour après, et d'où les 10 secondes gagnées. Donc, premier gain, le temps d'attente sur les quais équivaut à 6,5 millions d'euros. Deuxième gain, le temps de voyage dans les véhicules durant les heures de pointe. Là, il y a deux gains à prendre en compte. Un, on va plus vite. Avant, on passait 11,5 minutes, maintenant on en passe 10. Et en plus, ce temps est consommé dans des conditions plus confortables. Donc là, il fallait utiliser la petite fonction qui relie le coefficient de pénibilité à la densité de voyageurs. D'accord ? Vous appliquez juste la formule que j'ai faite tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ça passe. Bon, bref. Par voyageur, il y a un gain de coût généralisé de 63 centimes d'euros. Vous appliquez ce gain à 375 000 voyageurs par jour, multiplié par 300 jours ouvrés, et vous obtenez un gain total de 70,9 millions d'euros pour les voyageurs durant les heures de pointe. Et donc là, je fais de la pub pour mes travaux. On observe, d'après ces petits calculs très bêtes et méchants, que 40% des gains proviennent des gains de confort. Autrement dit, si vous faites du transport ferroviaire, urbain, essayez d'intégrer, si vous êtes confiant dans vos chiffres, des éléments de monétarisation sur les attributs qualitatifs, à commencer par le confort. À ce niveau-là, le rapport Kiné donne pas mal de nouveaux éléments. D'accord ? Pour boucler la boucle, le temps de voyage durant les heures creuses, comme je vous l'ai dit, vu que la fréquence des trains, elle, n'a pas été modifiée, il y a juste, on va plus vite, quoi. Et la densité reste la même. Donc, autrement dit... on fait les mêmes calculs et on voit un gain de 38,8 millions d'euros. Est-ce qu'il y en avait parmi vous qui avaient réussi à trouver tout ça ou pas ? Ou qui auraient réussi à trouver ça s'ils avaient eu un peu plus de temps ? Hein ?
Millions d'euros près ?
Ouais.
on a le droit, des fois, même si le diable se cache dans les détails, bon, 1 million, ça va.
J'aime pas avec les derniers termes. Pour moi, il n'y a que deux, il y a trois termes dans la formule du verbe généralisé. On a une somme de trois termes. Donc, a priori, le premier terme s'annule. Le delta sur le deuxième terme donne le 6,5.
Ouais.
Le delta sur le troisième terme donne
le deuxième.
110 millions. Donc je vois pas d'où vient la dernière...
Parce que durant les heures creuses, les individus vont plus vite. Ils ont le même niveau de densité, mais ils vont plus vite.
Donc en fait, on a un CG coût généralisé de 30 plus un coût généralisé.
Ouais.
À chaque fois par 375.
Parce que j'ai fait l'hypothèse qu'à peu près, il y a la moitié des voyageurs dans les une qui sont durant les heures de pointe, étant défini comme assez large, et d'autres.
Donc par hasard, ça retombe sur le même chiffre.
Oui, complètement.
Ok, c'est pour ça que j'avais pas...
Bon. A priori, vous auriez eu 5 minutes de plus. Ça vous montre que ce genre de calcul bête et méchant, vous êtes complètement en mesure de les faire. Deuxième étape, et à mon avis, bien plus compliquée. Ok. Deuxième étape, vous comparez ces bénéfices annuels, parce que si vous faites la somme de ces trois effets, vous voyez qu'il y a un gain annuel de 118,3 millions d'euros. Vous le comparez au coût de l'investissement initial. Alors attention, le coût d'investissement initial, c'est le coût qui était indiqué dans le tableau de 600, combien, 29, c'est ça ? 29, mais auquel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on applique le coût d'opportunité des fonds publics, ici, de 30%. Si bien que l'investissement initial monte à 817,7 millions d'euros. D'accord ? Maintenant, vous avez tous les éléments pour calculer la vanne. 629 fois 1,3, ça, c'est votre partie investissement initial. Le 1,3, c'est quoi ? Le coût d'opportunité, d'accord ? Et là, je fais l'hypothèse que les gains, je les ai calculés pour l'année 1, ils vont rester les mêmes pour les 20 ans à venir. Ça, bien évidemment, c'est faux, mais vous pourrez jouer là-dessus pour raffiner un peu le calcul. Mais du coup, en haut, c'est au numérateur, c'est comme si vous avez 20 fois 118,3. Et au dénominateur, vous avez 1 plus les 4% du taux d'actualisation, et vous pensez bien à actualiser. D'accord ? Ça donne une vanne de 761 millions d'euros et un taux de rendement interne proche de 13%. Alors, juste, c'est tout bête, mais je vous montre juste concrètement. Qu'est-ce que ça fait ? L'année zéro, c'est avant, c'est lors des travaux. C'est pour ça qu'on a le montant de l'investissement initial, 629 fois 1,3. Ensuite, 118,3 que vous tirez sur les 20 années de durée de vie du projet. Okay. Et après, regardez en haut dans la formule. Excel a cela de magique qui vous propose directement les formules pour calculer des vannes et des tris. D'accord ? Donc vous demandez à Excel de faire la vanne avec le taux d'actualisation de 4% de tous les éléments compris entre B4 et V4. Et vous voyez, moi aussi, j'ai 1 million d'euros. Je ne sais pas trop où ils sont passés, je m'en excuse. Et juste en dessous, Excel vous fournit également un calcul automatisé pour le taux de rendement interne. On tombe sur les 13%. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une feuille simple. Tout à l'heure, je vous en montrerai une un peu plus compliquée. Et j'en reviens à mes slides. Alors juste... Excusez-moi. Voilà. Donc, dans ce petit calcul, quelques limites que vous avez tous relevées. Donc, première conclusion. Bonne ou mauvaise initiative, l'automatisation de la ligne 1. A priori, justifié. Ça a une vanne fortement positive. Le taux de rendement dépasse amplement les 4%. Donc, on donne un accord rétrospectif amplement favorable. Les limites du calcul. Parce que ça, vous serez toujours confronté à des petits problèmes, des hypothèses simplificatrices. Et sachez qu'une grosse partie du travail consiste justement à discuter les simplifications que vous faites. Donc là, il y en a tout un ensemble de limites. La valeur résiduelle, a priori, dans 20 ans, elle sera quand même positive. D'accord ? Si on pense en termes de bilan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sous-estime les effets positifs. Le coût opérationnel. Bon. Peut-être que la RATP voit son bilan d'exploitation amélioré. Probablement. Donc, autrement dit, ça revient également à améliorer le bilan. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'ancien matériel roulant de la ligne 1 a été transféré à la ligne 4. Alors j'avais regardé les chiffres. Étonnamment, le nombre de places est quasiment le même. On aurait très bien pu dire, si la ligne 4 dispose aujourd'hui de plus gros matériel roulant, c'est plus confortable pour les usagers de la ligne 4.
Non.
Apparemment, ce n'est pas vraiment le cas.
Non.
C'est à peu près la même capacité d'accueil.
Non,
c'est pire ? Bon. Donc là, peut-être un signe noir, moins. Et la grosse hypothèse simplificatrice. C'est parce qu'il y a plus de monde. C'est parce qu'il y a plus de monde. La grosse hypothèse simplificatrice que j'ai fait, c'est quoi ? Ben, c'est fort probable que depuis l'automatisation, certains usagers qui étaient avant dans le RER A se soient déportés vers la ligne 1. Autrement dit, j'ai peut-être surestimé les gains de confort dans la ligne 1. OK ? Sauf que, en bon économiste que vous êtes, vous répondez à quoi, à cela ?
Externalité positive pour
les RER A. Voilà. Je sais pas si c'est... Là, on est à la limite de ce qu'on peut appeler une externalité. Parce qu'il y a une conséquence directe pour les usagers du RER A. Mais du coup, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ben, certes, le confort par rapport à ce qui devrait être est un peu moins dans la ligne 1, mais le report du RER A vers la ligne 1 fait que dans le RER A, ceux qui sont restés voyagent de manière un petit peu plus confortable. Réflexion faite, la fonction du coefficient de pénibilité que je vous ai montré, c'était quoi comme type de fonction ? C'était linéaire. Donc vous en concluez quoi ? Si. Si, non, ça veut surtout dire que les pertes en plus dans la ligne 1 sont à peu de choses près les gains que vous calculeriez dans le RER A. Vous auriez une fonction quadratique. C'est possible que passer d'un point à un autre, ça c'est pas le même effet. Mais avec une fonction linéaire, vous allez les pertes d'un côté vont être compensées par les gains de l'autre. OK ?
Ils n'ont pas le même...
C'est le même temps ? Oui, après, il y a le temps.
Avant et après, l'automatisation...
Ça, c'est pas dit... Oui, alors peut-être que le temps d'attente à cause de l'ouverture des portes est un peu moins. Peut-être. Mais...
Certes, ça paraît de manière linéaire...
Le confort. Oui, mais le temps, c'est autant tu peux dire l'automatisation de la ligne 1 joue sur le confort dans le RER A, ça se défend, autant dire que l'automatisation de la ligne 1 joue sur le temps du RER A.
Non, justement.
Ouais.
Dire que les gains gagnés grâce à l'automatisation de la 1 seraient à peu près compensés par les pertes du RER A.
Non, c'est l'inverse. Il y aurait des pertes s'il y a report du RER A vers la ligne 1.
Les gains financiers, pas les gains en temps de pratique.
Ouais. Désolé, je suis perdu là.
Okay,
bon. Oui.
Dans les limites aussi, il y a forcément eu, alors je crois que la ligne 1, ça s'est fait de manière relativement simple, mais des dérangements faits à l'essai, par exemple, des nouvelles rames qui ont été faites, etc. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être chiffré.
Bien évidemment.
Pour le coup, dans les externalités négatives, sont, enfin, du moins le ressenti a un coefficient énorme parce que les gens détestent ça.
Je suis tout à fait d'accord. La seule chose que je répondrai à ça, c'est que dans le meilleur des mondes, tu l'intègres à ton calcul, certes. Mais là, on parle d'un truc qui est valable pour les 20 ans à venir. Et donc, les épisodes d'essai, même s'ils sont étalés sur quelques mois, c'est relativement négligeable par rapport aux 20 ans à venir.
Oui, mais ça, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit être intégré en année 1 ?
Si, probablement, probablement. Bah même en moins 1.
Oui,
mais ça, bah si tu fais ça, j'achète complètement. Oui. Bon. OK, pour le premier exemple, on en passe au deuxième très rapidement. Et au final, c'est vrai qu'on est un peu plus long que prévu. Le deuxième exemple, alors je vous avais dit, évitez toute mauvaise comparaison qui consisterait à voir dans ce genre de calcul le choix entre une LGV ou investir dans les TET. Les chiffres qui vont suivre n'ont rien à voir avec la réalité, ils sont juste choisis pour l'exemple. L'idée, malgré tout, est la suivante. Vous avez deux villes distantes de 800 km, connectées actuellement par une vieille liaison ferroviaire gérée par une entreprise publique. Il y a deux projets concurrents dans les cartons. Soit vous construisez une nouvelle ligne, soit vous améliorez la liaison existante. Vous comprenez bien que les deux projets vont avoir des incidences différentes sur les voyageurs, le niveau de trafic, sur les temps de voyage et les temps d'attente en gare, sur les coûts financiers, que ce soit pour les voyageurs ou l'opérateur public de transport, et également sur les externalités, les effets environnementaux notamment. Donc toujours la même question. Bah maintenant, on se pose vraiment la question, quel projet choisir? C'est plus temps de savoir si c'est un bon projet ou non. Chose qu'on a faite juste auparavant. Maintenant, c'est quel projet choisir? Donc, encore une fois, vous avez toutes les infos. Et là, malheureusement, j'ai peur que ça prenne un peu plus de temps. Donc, on va peut-être juste plancher ensemble sur... Je vais vous laisser plus plancher sur la variation du surplus des voyageurs. D'accord? Que vous aurez à calculer à l'aide de ces chiffres. Donc ces chiffres vous donnent les éléments sur les deux projets. New, c'est la nouvelle liaison. TER améliorée, c'est vous, bah, comme le nom l'indique, vous améliorez la liaison existante. La durée de vie est différente. L'investissement initial est différent. Le trafic quotidien également. Avec la nouvelle ligne, vous avez une capacité d'accueil double par rapport à l'existant. Et pour le TER amélioré, ça augmente de 50%. Ensuite, le prix du billet. Avec le TER amélioré, on ne touche pas. Par contre, avec la nouvelle liaison, c'est un peu plus cher. Pourquoi? Parce que notamment le temps de voyage, qui est amélioré dans les deux cas, est substantiellement réduit dans le cas de la nouvelle liaison ferroviaire. Par contre, la fréquence des trains est un peu moindre. Donc le temps d'attente augmente par rapport à la situation initiale dans le cas de la nouvelle liaison. Et inversement, avec les investissements dans le réseau existant, on arrive à augmenter un peu la fréquence des trains. Donc un temps d'attente réduit en gare. Le coût opérationnel, c'est, attention, hein, je me répète, désolé, mais ces chiffres, je les ai sortis du chapeau. C'est là où vous, quand vous serez confronté à de vrais projets, vous devez choisir les bons chiffres, ok? Le coût opérationnel reste le même, quel que soit le projet. Le coût du CO2 émis, eh ben, il est plus élevé dans la situation initiale parce que les locomotives sont plus polluantes. Idem en ce qui concerne les polluants locaux et le coût du bruit. Alors ça, vu qu'il y a une plus grosse capacité, globalement, c'est peut-être du matériel qui est un peu plus lourd, donc qui fait plus de bruit et potentiellement qui a plus d'incidence sur les polluants locaux. Mais encore une fois, c'est des chiffres qui ne veulent rien dire. Dernière colonne, ligne, pardon, la part du trafic induit. Qu'est-ce que j'appelle le trafic induit? C'est la différence entre la situation initiale, d'accord, et la situation de trafic, le trafic que vous aurez dans les deux cas. Donc, quand je dis, là, 30%, c'est du trafic induit, ça veut dire que 30% de la différence entre ça, c'est du nouveau trafic qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu, c'est des nouveaux déplacements entre les deux villes qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu le projet ferroviaire. Par contre, 40% de cet écart entre ces deux grandeurs, avant, utiliser le bus et finalement 30% avant utiliser la voiture. Dernier élément dont vous avez besoin, c'est le temps de voyage, la valeur du temps de voyage, pardon, 15 € par heure. La valeur du temps d'attente en gare, 30 € par heure. La valeur, on va dire, du CO2, des bus, voitures, ça je l'avais déjà mis avant en fait. Non, oui, pardon, la valeur du CO2 d'un bus, la valeur du CO2 d'une voiture, idem pour les polluants locaux, le bruit, et regardez en bas, j'ai mis congestion, bus et voiture. Là, encore une fois, c'est des hypothèses simplificatrices, on suppose que les gains de décongestion, ça concerne uniquement 30% du trafic. D'accord? Autrement dit, si vous revenez avant, vous aurez un volume total de déplacements qui étaient auparavant réalisés en voiture et en bus, il y en a uniquement 30% qui participent à décongestionner les réseaux. D'accord ? Parce qu'en heure pointe, en heure creuse, on peut supposer qu'il n'y a pas de bénéfice de décongestion, parce que ce n'est pas congestionné. Bon, là, clairement, je pense que ce serait un peu trop ambitieux de faire tout l'exercice. Je ne sais pas. Ou alors, on décide de squeezer la dernière partie et vous planchez vraiment là-dessus. Peut-être que le plus simple, c'est déjà juste, on s'intéresse au gros du projet, à savoir la variation de surplus des voyageurs. Au préalable, qu'est-ce que le surplus ? Pour un économiste, qu'est-ce qu'on appelle le surplus ? Le surplus, c'est la différence entre le coût que supporte actuellement un individu et sa disponibilité marginale à payer. La disponibilité marginale à payer, elle est inscrite dans la droite de demande. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Avant le projet, l'équilibre, il était en A. On avait un prix P0 et une quantité d'utilisation Q0. D'accord ? Le surplus du voyageur qui correspond à l'équilibre initial, je vous ai dit, c'est quoi ? La différence entre le coût supporté, donc ça, et la disponibilité marginale à payer des individus. C'est quoi la disponibilité marginale à payer ? C'est la droite de demande. Autrement dit, si on avait consommé que ça comme quantité, la différence, c'est quoi ? C'est ce qui est décrit par mon doigt. Je suis désolé pour ceux qui sont dans une autre salle et qui suivent par Internet, ça ne doit pas être très clair. Mais c'est ça. Si on consomme cette quantité, vous voyez que la disponibilité est un peu moindre. Et ainsi de suite. Nous, on consomme toute cette quantité-là, à ce prix-là. Donc le surplus des voyageurs, c'est quoi ? C'est la surface de ce triangle-là. D'accord ? Et l'idée, c'est tout bête, c'est que vous consommez Q0, mais que vous auriez été, ne serait-ce que pour payer la première unité, vous auriez été disposé à payer bien plus. Donc il y a une différence entre ce que vous étiez disposé à payer et ce que vous payez, effectivement. D'accord ? D'où l'idée de regarder la surface. Ça, c'est ce qu'on appelle le surplus du consommateur, de manière générale, et appliqué à l'économie des transports, le surplus des voyageurs. Souvenez-vous, dans mes premiers slides, j'avais dit, on essaye, quand on fait de l'analyse coût-bénéfice, de regarder la variation de surplus des voyageurs. L'équilibre initial, c'est en A. Le surplus, c'est quoi ? Je vous l'ai dit, c'est ce triangle-là. L'équilibre, ensuite, avec le projet, ça va être B. Indifféremment de quel projet on étudie. Dans tous les cas, vous avez vu qu'il y a un peu plus de trafic, probablement un coût moindre. Donc c'est B. Donc le surplus à la situation ex post avec le projet, c'est quoi ? De manière similaire, c'est le grand triangle. Donc la variation du surplus, c'est quoi ? La surface assurée. Ok ? Donc vous, dans le cadre de l'analyse coût-bénéfice, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez trouver les différentes coordonnées, P0, P1, Q0, Q1, et vous savez tous calculer la surface d'un rectangle et la surface d'un triangle. Ok ou pas ? Donc, je vous propose juste de faire le calcul du surplus du voyageur. Je vous montrerai après les autres pendant, à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour l'entreprise ferroviaire, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'externalité. Mais là, déjà, si vous avez réussi à calculer la variation du surplus des voyageurs dans les deux cas, ce serait une très bonne chose.
Mais on n'a pas la droite de demande.
Non, mais est-ce que tu as besoin de l'avoir ?
Bah
non. Est-ce que tu as besoin d'avoir A et B ? Non. Ah non, regarde. Toi, ce qu'il te faut juste, c'est calculer la surface de ce rectangle-là. Donc ça, et 0 à Q0. Ok. Pour calculer la surface du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Si tu as calculé P1, P0, tu gardes. Et là, tu connais la différence entre Q0 et Q1. Tu n'as pas besoin de A et B. Ok. Donc, je vous laisse le faire pour les deux projets. Bon, apparemment, quelqu'un a déjà réussi à trouver la réponse. Donc, si ça vous convient, sauf si on ne fait pas de pause, ce qui me va tout autant. J'essaie d'arrêter de fumer, donc bon, ce sera un mal pour un bien, donc voilà. Bon, ça vous va donc si on passe... Je peux continuer? Ouais. Bon. Alors, ça va permettre de voir si vous étiez parti dans le bon sens ou pas. Pour chacun des deux projets, il faut calculer la variation du coût généralisé, P1 et P0. Par rapport à la situation initiale dans le cadre du projet de la nouvelle infrastructure, le coût monétaire, le prix du billet à proprement parler, augmente de 0,05 euros par passager kilomètre. Ça, c'était simple, je pense, c'était juste comparer le tableau. Le temps de voyage, qui passait de 8 heures à 3 heures, donc il a été réduit de 5 heures. Vous multipliez ces gains de temps par la valeur unitaire du temps de 15 euros par heure. Donc, autrement dit, vous gagnez 75 euros par voyage. Là, il y avait une légère complexification, excusez-moi, un léger piège, on va dire ça comme ça. C'est que sur le graphe, l'unité que je vous demandais, c'était en euros par passager kilomètre. Là, vous avez euros par passager, par voyage. Donc la seule chose à faire, c'est de diviser par la longueur d'un voyage, 800 kilomètres. Autrement dit, les 75 euros par voyage se transforment en un gain de 0,09 euros par voyageur kilomètre, passager kilomètre. C'est la même chose. Troisième élément, le temps d'attente, qui, dans le cas de la nouvelle infrastructure, augmente de 30 minutes par voyage. Vous faites exactement la même chose. 30 minutes que vous multipliez par la valeur du temps, donc 30, fois 0,5 pour une demi-heure, divisé par 800 km. Vous faites la somme entre ces trois composantes, argent, temps d'attente, temps de voyage, et vous voyez que le coût généralisé a baissé, dans ce cas, de 0,02 euros par passager kilomètre. Là, du coup, vous avez tous les éléments pour calculer le rectangle, la surface du rectangle et la surface du triangle. C'est ce qui est fait juste en dessous. Donc attention, ça c'est par jour, et vu qu'il y a 300 jours ouvrés dans l'année, vous multipliez par 300, et vous voyez que le gain de surplus du voyageur est de 7,2 millions d'euros. Ok ? Vous faites exactement la même chose pour le projet qui consistait à rénover la TER existante. Alors, le coût monétaire reste le même entre les deux variantes. Le temps de voyage ne baisse que de 2 heures. Par contre, le temps d'attente diminue. Si bien qu'au final, la baisse du coût généralisé est supérieure. Et là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, ça provient essentiellement de l'hypothèse que j'ai faite sur le coût monétaire. Ok ? Certes, je gagne un peu moins de temps, mais j'ai les mêmes dépenses monétaires qu'auparavant, alors que dans le cas du premier projet, je gagne beaucoup en temps, mais je paye quand même beaucoup plus aussi en argent. Dans le deuxième cas de figure, idem, vous calculez l'aire du rectangle et l'aire du triangle, et vous obtenez un gain total de 15 millions d'euros par an. Avant de passer au slide suivant, je me permets juste de vous faire un commentaire. Ce qui peut être assez intéressant quand vous faites ce genre de calcul, c'est de regarder la part des gains aux personnes qui sont les anciens utilisateurs, le rectangle, et la part des gains pour les nouveaux utilisateurs, le triangle. C'est toujours assez intéressant de regarder la distribution des gains. Est-ce que c'est plutôt les anciens usagers ou les nouveaux usagers qui gagnent, qui perdent le plus ? Ok. Oui ? Par ? Le temps d'attente ? J'ai pris 30 euros par heure ? Non, c'est pas ça. Déjà, en plus, j'ai fait un piège, pas un piège. Dans l'exemple du métro, on travaillait avec les valeurs du temps d'attente de l'ancienne instruction, qui disait qu'il fallait majorer le coût normal du temps de 50%. dans la nouvelle instruction, donc dans le nouveau rapport Kiné 2013, le coût d'attente, c'est non plus majoré de 50%, c'est multiplié par 2. Là, si tu regardes, le temps de voyage, il est de 15 euros par heure. Le temps d'attente, 30 euros par heure. Je n'ai pas répondu à ta question. Pardon.
Ma question, c'est pourquoi vous n'avez pas divisé le temps d'attente par 2? Parce que pour le métro, on a divisé par 2.
C'était l'intervalle. Parce qu'on travaillait, oui, on partait de la fréquence. Là, je te donne directement le temps d'attente. C'est pas la fréquence entre deux trains, c'était le temps d'attente. D'accord ? Le temps d'attente moyen. Pardon, désolé. Non, mais, oui, c'était pas forcément clair. Bon, avant la pause, on continue sur cet exemple. L'entreprise publique. Dans la situation initiale, si vous regardez la différence entre ce que payent les voyageurs et le coût opérationnel, vous voyez que le voyage est subventionné à hauteur de 0,05 euros. Bon, il y a une perte, entre guillemets, pour l'opérateur ferroviaire de 0,05 euros par passager kilomètre. Si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on devait appliquer aux variations de finances publiques le coefficient des fonds publics. Et là, je l'ai pris à 1,25 pour les nouvelles valeurs. Désolé. C'est vrai que ce n'est pas forcément clair pour vous, mais en gros, vous appliquez cette subvention au nombre de voyageurs concernés, fois 300, le coût d'opportunité, vous voyez que la perte dans la situation initiale, l'entreprise ferroviaire est déficitaire de 15 millions d'euros par an. Dans la situation où on s'intéresse à la nouvelle ligne, bah vous voyez que pour le coup, les dépenses des voyageurs sont égales au coût opérationnel. Autrement dit, l'entreprise publique, c'est neutre pour elle. Autrement dit, par rapport à la situation initiale, on fait quoi? On économise les 15 millions d'euros. C'est clair pour tout le monde? Ok. Variante, la TER rénovée, c'est probablement pas la bonne appellation. Mais là, on a également une subvention, parce que les coûts monétaires pour les voyageurs sont moindres que les coûts opérationnels. Et par contre, le coût des subventions totales augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de voyageurs. Donc par rapport à la situation initiale, ça représente une perte. Ce projet-là présente une perte pour les finances publiques. OK? On passe au troisième volet, le volet externalité. La situation initiale, on s'intéresse aux pollutions qui étaient émises par l'ancienne liaison ferroviaire. Donc là, juste j'ai repris les valeurs qui étaient données dans les différents tableaux auxquels j'ai appliqué le nombre de voyageurs quotidiens et le nombre de jours. OK ? Vous faites la même chose pour le nouveau, avec le projet de nouvelle ligne. Vous voyez que les externalités ont un peu augmenté, de 0,8 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux fois plus de voyageurs, tout simplement. Par contre, maintenant, ce que vous devez prendre en compte, c'est quoi? C'est les origines modales. Voilà, le report modal des nouveaux voyageurs. D'accord? Et donc là, si on s'intéresse juste au CO2 économisé, je vous ai dit que 40% du nouveau trafic, c'était 800 000. D'accord? Je vous ai dit que 40% du nouveau trafic était avant dans les bus. J'y applique le coût des émissions de CO2 des bus. Idem pour les voitures. Je multiplie par 300. D'accord? C'est clair pour tout le monde ou pas ces calculs-là? Dernier élément à prendre en compte, et là, il y a une légère subtilité, c'est la congestion. Pourquoi? Bah, idem, 40% du nouveau trafic était avant dans les bus avec un coût marginal de congestion de 0,1 euro. Sauf que je vous ai dit, attention, c'est valable uniquement pour 30% du trafic. C'est pour ça qu'il y a ce 0,3 qui apparaît ici et là. C'est clair pour tout le monde? Donc, avec le nouveau projet, on a des gains d'externalité émises de 14,6 millions d'euros. Même chose pour le projet concurrent. les gains d'externalité sont au final un peu moins importantes, 7,6 millions d'euros. Est-ce que j'ai besoin de redétailler vite fait ça ou pas? C'est bon? Ok. On a tous les éléments pour calculer la VAN. Donc c'est la même formule que tout à l'heure. À gauche, on a l'investissement initial, auquel il faut bien penser à appliquer le coût d'opportunité des fonds publics. Puis la somme des différents effets sur 50 ans qu'on actualise. Et on voit que dans le cas de la nouvelle liaison ferroviaire, la VAN est négative. Ça équivaut à une destruction de ressources économiques à l'horizon de 50 ans de 273 millions d'euros. Si on fait le même calcul pour le projet de rénovation du TER, eh ben, on trouve une VAN positive, 119,3 millions d'euros. Donc, sans faire d'amalgame avec des exemples concrets, puisque les données que j'ai utilisées sont tout sauf réelles, vous devriez conclure de ce genre de calcul que, a priori, on préfère rénover la liaison TER existante. Avec cette deuxième variante, ce deuxième projet, on peut trouver un taux de rendement interne de 11,5%. Ici encore, c'est supérieur au 4,5%, autrement dit, on sélectionne le projet. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait une autre manière, un autre indicateur, qui consistait à comparer les bénéfices annuels avec l'investissement initial que vous annualisez. C'est ce que vous détaille là, ces petits calculs. Tous les ans, la nouvelle liaison génère 36,8 millions d'euros de bénéfices. On divise par l'investissement initial qu'on a annualisé, en prenant encore en compte le coût d'opportunité. Okay. Et si vous faites ce genre de calcul, vous voyez également que le ratio solde annuel divisé par investissement initial annualisé est également en faveur du projet de rénovation de la TER. Tu fais la somme. Non, 36,8, c'est, si je ne me trompe, c'est la somme de 7,2 plus 15 plus 14,6. Ok ?
Quand on parle des limites à 4,5%, moi ce matin, avec Peter, j'ai compris qu'on différenciait quand même la rentabilité purement financière avec la rentabilité socio-économique.
Là, c'est socio-éco.
Et justement, moi j'ai compris que quand on regarde que le financier, on compare au 4,5%. Et quand on commence à parler de socio-économique et qu'on intègre justement toute l'externalité, on regarde un petit peu le grand projet. Parce que du coup, le ratio n'est pas le même.
Bah non, c'est moi justement, c'est plutôt l'inverse. Si tu regardes que le financier, tu vas prendre un taux de rendement qui doit, si tu le places, tout à l'heure je mentionnais 12%, mais souvent en compta nat ou en compta même privé, la limite de 8% est souvent appliquée. 8% c'est le rendement que peut avoir un opérateur privé en mettant son marché sur un marché financier par exemple. Son argent, pardon, sur un marché financier. Donc, autrement dit, le minimum qu'il attend de son investissement, c'est 8%. L'État peut se permettre de demander un peu moins. Donc le bilan socio-éco.
Si je prends cet exemple-là, le bilan socio-éco et le bilan financier, c'est presque le même, sauf qu'on enlève, des choses.
Les externalités.
D'accord. On aura juste le chiffre inférieur. Forcément, le bilan socio-éco est généralement plus rentable. Ça donne un chiffre de rentabilité plus important que le bilan financier.
Si en termes d'externalité, il y a des gains. Oui, c'est une solution.
C'est une solution. Du coup, parce que là, c'est vrai que du coup, le 4,5%, là, on est à 11,5%. Si on enlève les avantages d'externalité, on va tomber tout de suite à peut-être à 8, 7, 6%.
Mais on reste au-dessus du 4,5.
Ouais. Du coup, le 4,5, regardez la même chose dans les deux cas, c'est dire qu'on a la même petite comparaison.
Ok, mais dans ce cas, si ton idée, c'est si je m'intéresse à purement un bilan financier. Moi, je pense sincèrement que le TRI, ça dépendra de ton employeur. Mais j'imagine que dans chaque firme privée, on a des exigences de rentabilité différentes. Mais je pense que 8%, c'est le minimum. Et comme je te disais tout à l'heure, dans le cas des PPP, bien souvent, ils demandent 12%. Si, par contre, tu travailles au ministère de l'Environnement, tu dois statuer sur un bilan socio-éco. Le minimum que tu attends, c'est 4,5%. Voire 2,5% si tu es certain s'il n'y a aucun risque. N'oublie pas que dans les 4,5, tu as 2,5 de taux de base, auquel tu additionnes 2% de prime de risque.
Donc du coup, si on est sur un projet qui financièrement est à 12%, on peut ramener énormément d'externalités négatives. Donc dire qu'on...
C'est une manière de dire les choses, mais...
L'environnement, et finalement...
Oui.
Est-ce qu'on prend la politique grand chantier ?
Si tu es opérateur privé ? Là-dedans, je ne l'ai pas pris en compte, bien évidemment, mais ça, c'est vrai que dans le bilan loti, tu as l'effet chantier qui est à prendre en compte. Oui, tout à fait. Et en ce moment, bon, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, il y a pas mal de papiers qui vont sortir, à mon avis, sur le SEA. Oui. Tu travailles peut-être pour eux ?
Non, mais
il y a un doctorant qui fait sa thèse avec Bouba Olga exactement là-dessus, un gars qui s'appelle Étienne Foucré, et qui a déjà produit des choses assez intéressantes, et il montre que c'est assez important. Mais bon, ça, c'est très important. C'est d'autant plus important que maintenant, les LGV, bah, celles qui sont en chantier, sont financées par les collectivités locales aussi. Donc le maire, il peut dire, OK, je paye parce qu'en retour, je vais avoir tant d'emplois et retomber. Voilà. OK, c'est vrai que je n'ai pas du tout parlé des retombées économiques directes ni indirectes. Autant pour moi. C'est pour ça que j'ai mis attention de multiples certifications. Bon, bref. J'aurais dû rajouter retombées économiques directes et indirectes. Bon, il est quelle heure ?
4h30.
Donc, pas de pause, ça vous va ? Pas de clope, c'est bien.
C'est bon pour la santé.
Dernier exemple. Là, du coup, on est en cours un peu après le temps. Je ne pourrais pas vous laisser faire des petits exos. Et par contre, je vous laisserai bien le temps de reprendre ce slide chez vous et de les critiquer autant que vous voulez. Encore une fois, prenez pas ce qui est mis dans les slides pour argent comptant. Ça ressemble vaguement et de loin au projet du Lyon-Turin, mais bien évidemment, on n'a pas accès aux mêmes données que peut l'avoir la société Lyon-Turin Ferroviaire. Donc c'est plus un essai d'analyse coût-bénéfice qui a été réalisé par un de mes collègues, Rémi Prudhomme. Ceux qui seraient intéressés, cet article a été publié dans la revue Transport. Et globalement, je suis le même exposé qu'il y présentait. J'ai juste actualisé un petit peu les chiffres. Mais encore une fois, c'est des chiffres qui ne sont pas forcément tous crédibles. Mais je voulais montrer parce que ça commence à ressembler à une analyse coût-bénéfice un peu plus complexe et un peu plus complète. D'accord ? Donc, on ne va pas perdre trop de temps sur l'historique du projet. Depuis le début des années 90, se sont multipliés plein de sommets internationaux pour se dire que ce serait quand même bien de développer un nouveau tunnel ferroviaire reliant l'Italie à la France pour préserver l'environnement des montagnes. Et pourquoi ? Bah parce qu'en fait, il y a d'importants flux, notamment de transport de marchandises, entre le nord de l'Europe, les Pays-Bas et la Belgique, et le sud de la Méditerranée, l'Italie. Et donc, à un moment ou à un autre, on est obligé de passer par les Alpes, soit côté suisse, soit côté français. Et quand on passait par le côté français, ça commençait à être un petit peu congestionné et à poser des problèmes d'atteinte à l'environnement des montagnes. D'où l'idée de construire un tunnel de 50 km entre la France et l'Italie et d'en profiter pour créer une LGV reliant Lyon à Turin. Donc, c'est l'exemple typique du méga projet pour lequel l'État français et l'État italien ont créé une joint venture internationale, chaque État détenant 50% des parts. Vous avez probablement entendu parler de l'opposition, notamment des groupes écologistes des deux côtés de la frontière, contre ce projet. Et vous avez probablement également entendu parler des critiques financières liées au projet, disant que c'était un projet vraiment trop pharaonique, trop onéreux, surtout par les temps qui courent. Juste, en ce qui concerne l'analyse coût-bénéfice, il faut savoir que ce projet n'est pas sorti de n'importe où et qu'il y a eu plusieurs analyses coût-bénéfice qui ont été conduites avec des bilans souvent positifs. Il y a une commission intergouvernementale qui, en 2001, a produit un calcul qui trouvait une vanne positive pour le projet. L'Union européenne avait mandaté des experts indépendants en 2006, avait également trouvé un bilan favorable au projet. Et plus récemment, la société Lyon-Turin Ferroviaire a reproduit une analyse coût-bénéfice, avec une conclusion favorable. Dans le même temps, et plus récemment, le commissariat général à l'environnement et au développement durable, ainsi que la Cour des comptes, on produit également des analyses coûts-bénéfices contradictoires qui, elles, remettaient quelque peu en cause la rentabilité socio-éco du projet. Donc l'idée, c'est juste, sans aller vraiment dans l'exhaustivité de donner la réponse, juste de voir, avec les outils qu'on a vus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet. Donc l'objectif, on va comparer le coût du projet, qui dans les dernières estimations est de 26 milliards d'euros, si on le considère dans son ensemble, autrement dit dans la partie française, italienne et transfrontalière. On va comparer ce coût initial de 26 milliards d'euros avec la variation du surplus des usagers, les usagers étant et les voyageurs et les transporteurs de marchandises, la variation du surplus des producteurs, les producteurs étant ici les entreprises ferroviaires et celles qui gèrent les autoroutes, mais surtout les tunnels dans la montagne, les variations de recettes pour l'État et la variation des externalités émises. Attention, l'exercice, là, on le fait pour l'ensemble du projet, mais bien évidemment, vous pourriez le refaire pour la partie française, la partie italienne, la partie transnationale. Idem, je vais faire pas mal d'hypothèses simplificatrices et je vais faire des tests de sensibilité à la fin. Et j'aimerais bien avoir un petit peu de temps pour vous montrer le tableur Excel un peu plus poussé. Et c'est une fois qu'on a un bon tableur Excel qu'on peut s'amuser à faire des tests de sensibilité et du coup à questionner la robustesse des résultats. Et ça, je ne l'ai pas encore assez précisé, mais essayez de le noter noir sur blanc. Si vous faites des analyses coûts-bénéfices, votre travail n'en sera que meilleur si vous faites plein de tests de sensibilité. Les trafics. Alors, c'est les données centrales du problème. Et là, contrairement à Lyon-Turin ferroviaire, moi, je n'ai pas de modèle trafic. Donc, ce que je vais vous sortir, je fais comme Prud'homme, je les sors du chapeau, je fais quelques hypothèses, et ça, c'est hautement critiquable, parce que normalement, ce genre d'informations, vous devez utiliser au préalable un modèle de trafic tel que ça vous a été présenté ce matin. OK ? Dans la situation initiale, actuellement, pour relier la France à l'Italie, il y a deux tunnels. Pour la route, vous pouvez passer soit par le tunnel du Mont-Blanc ou le tunnel du Fréjus, ou alors, vous pouvez passer par le tunnel de Mont-Cenis en ce qui concerne le mode ferroviaire. Les hypothèses qu'on fait sur le trafic. En ce qui concerne les voyageurs, la nouvelle LGV, Lyon-Turin, va capter 50% du trafic actuel et va créer 30% du trafic actuel qu'elle va s'approprier. En ce qui concerne le transport de marchandises, le tunnel va capter 25% du trafic du tonnage actuel transporté et va créer 10% de trafic. Par ailleurs, on fait l'hypothèse que le trafic va augmenter à un taux de croissance de 2% par an. Généreux. Enfin, par souci de simplification, pour les voyageurs, je ne m'intéresse pas au transport aérien. Alors même qu'on, dans les vrais modèles, il faudrait l'intégrer. Du coup, ce tableau récapitule actuellement, sans le projet, quel est le trafic et sa décomposition. Les voyageurs qui utilisent la route, les voyageurs qui utilisent le rail. Comme je vous dis, c'est négligeable actuellement, le trafic ferroviaire de voyageurs entre Lyon et Turin. Les marchandises acheminées par la route et les marchandises acheminées par le rail. Vous faites, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 50% du trafic de voyageurs avant fait par la route va aller dans la LGV, d'où le 1,3. Le 0,8, ça correspond au 30% de trafic actuel. D'accord ? Vous faites exactement. Vous suivez les hypothèses, ça vous permet d'avoir une sorte de matrice du trafic selon les modes et selon le type de trafic, avant et après le projet. Première conclusion, bah d'après mes hypothèses, le voyage total augmente légèrement et le voyage de marchandises augmente de manière un peu plus substantielle, mais c'est normal, on part d'un tonnage plus important. Ensuite, là, je vous ai parlé du nombre de voyageurs et du nombre de tonnes transportées. Ce qu'il faut, c'est relier ça également à des kilomètres parcourus, puisque vous commencez par comprendre que, notamment ce qui concerne les externalités, à chaque fois, on rapporte ça à des kilomètres parcourus. Les émissions sont, par définition, liées à un nombre de kilomètres parcourus. Donc, on fait une hypothèse très généreuse. En fait, on ne s'intéresse pas juste à Lyon-Turin, qui fait 400 km, mais on s'intéresse à des segments de transport qui vont un peu plus au nord de Lyon et probablement un peu plus au sud de Turin. Donc le voyage économisé, dans une manière très généreuse, on va dire que c'est 1000 km. Okay ? Que ce soit pour la route ou pour les voyageurs. On suppose également qu'une voiture transporte en moyenne 1,3 voyageurs. Ça, c'est la moyenne qui est... Alors, c'est très dur d'avoir des chiffres sur le taux d'occupation, sauf hier, à Paris. Mais globalement, 1,3, c'est la moyenne française acceptée. Et en moyenne, un camion charge 22,6 tonnes. Ça, ça a été obtenu en divisant le nombre total de tonnes transportées par le nombre total de camions utilisant l'axe. D'accord ? Ça nous donne une sorte de taux de charge moyen. Si on croise ces données avec le trafic, les données de trafic qui étaient sur le slide précédent, vous voyez que grâce au tunnel ferroviaire et à la LGV Lyon-Turin, on évite, grâce au projet, 1 milliard de véhicules kilomètres et on économise 315 millions de camions kilomètres. CKM pour camions kilomètres, VKM pour véhicules kilomètres. Donc toujours la même chose. Pourquoi il y a un changement de comportement de la part des voyageurs et des transporteurs? Parce que la nouvelle option permet de gagner essentiellement du temps. Et les deux heures de temps de voyage estimé, ça pour le coup c'est relativement cohérent avec ce que j'ai pu lire de ce qui a été produit par Lyon-Turin ferroviaire. D'après donc l'opérateur en charge du projet. Maintenant, vous êtes des experts en calcul de variation de surplus. Donc, classiquement, on va faire exactement les mêmes calculs. On s'intéresse d'abord aux voyageurs. Comme je vous l'ai dit, avant le projet, le transport de voyageurs par la voie ferroviaire était, j'avais dit, négligeable, nul. Notre équilibre, il est là-haut. Pourquoi c'était négligeable? Parce que c'était très coûteux. D'accord? Suite au projet, l'équilibre va être en B. Pourquoi? Parce que le coût généralisé du voyage a baissé. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de calculer cette baisse, X. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà, bon, 0, voilà, par définition, on le connaît. Et grâce au tableau, aux hypothèses que j'ai faites après, on a la deuxième point. Donc, comme tout à l'heure, on va essayer de calculer la surface du triangle. D'une manière similaire, pour les marchandises, on savait que la situation initiale, c'était le point A, avec 3,3 millions de tonnes transportées par la voie ferroviaire. Suite au projet, le coût généralisé va baisser, ce qui va augmenter le volume de fret. Et donc, idem, on approxime ça par la variation de surplus des transporteurs. C'est bon? Là, maintenant, je pense que... OK. Pour les voyageurs, on a dit que ça coûtait... ils allaient gagner 2 heures. Si on suppose que le coût d'opportunité du temps, c'est 17 euros par heure, les 2 heures gagnées correspondent à 34 euros économisés. Et donc, ça, c'est l'estimation la plus basse. Et vu que je suis bête et méchant, je vais supposer que les dépenses monétaires restent les mêmes. C'est probablement faux. Mais ça me donne une première approximation de combien a baissé le coût généralisé. En ce qui concerne les marchandises, j'utilise la valeur la plus élevée de la valeur du temps du coût d'opportunité du temps de voyage des marchandises, qui est de 60 centimes d'euros par tonne transportée par heure de voyage. 2 heures gagnées, du coup, ça me fait économiser 1,2 euros par tonne transportée sur cette liaison. À ces gains de temps, en fait, c'est des gains d'immobilisation, surtout des marchandises, qui arrivent plus rapidement à destination finale. À ces gains de temps, je dois également ajouter l'économie sur les salaires horaires des chauffeurs. Parce que du coup, les chauffeurs, ils conduisent 2 heures en moins. Du coup, si on suppose qu'ils sont payés 15 euros par heure, pour un camion qui charge 22,6 tonnes, ça nous permet de trouver 1,3 euros d'économisé lié au salaire des chauffeurs routiers par tonne transportée sur cette liaison.
Intermodalité, chargement, déchargement.
J'ai dit que c'était un exercice plus illustratif que, à proprement parler, précis. Désolé, c'est très généreux. Et malgré le fait que ça soit généreux, tu verras que ça reste très négatif. Bon, pour les marchandises, le gain total est donc de 2,5 euros par tonne transportée. Là, j'ai fait une hypothèse forte. Hein. Je fais l'hypothèse que les dépenses monétaires restent les mêmes. Ça nécessite d'être creusé. Mais je vous avouerai que je suis allé un peu pas au plus vite pour préparer ce cours, mais j'estimais qu'il y avait déjà pas mal de matériel. Et voilà. Donc, avec ces données-là, on a toutes les informations pour calculer la variation du surplus des voyageurs et des transporteurs de marchandises. Pour les voyageurs, souvenez-vous, c'est juste le triangle. Le triangle, c'est de combien ça a bougé, delta coût généralisé, 34, fois la base, 2,1 millions de voyageurs, fois 0,5, parce que base fois hauteur divisé par 2. D'accord ? Donc la variation, c'est 35,4 millions d'euros par an. Pour les marchandises, bah pareil, j'ai toutes les coordonnées pour calculer la surface du rectangle et du triangle, et on trouve un gain de 21,3 millions d'euros par an. Une précision importante. Par rapport aux exemples qu'on avait fait jusque-là, dans ce travail-là, le trafic, que ce soit la marchandise ou les voyageurs, ça augmente à un taux de croissance annuel de 2%. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces gains vont augmenter pour les voyageurs. On est passé d'une situation de 0 voyageurs à 2,1 millions de voyageurs et ça a continué d'augmenter sur la durée de vie du projet. Pour les marchandises, c'est le triangle qui augmente. Vous vous souvenez? Donc cette partie-là va augmenter au fur et à mesure du temps. On passe au surplus des producteurs. Si on s'intéresse aux entreprises ferroviaires, la variation du surplus des entreprises ferroviaires va dépendre de quoi? De la différence entre le coût du service fourni et le prix auquel elles le facturent. D'accord? C'est très dur, peut-être pas pour vous, mais pour nous chercheurs, c'est très dur d'avoir des idées claires et précises de combien coûte le coût opérationnel du fret ferroviaire notamment. Dans le cas de la LGV Nord, ce n'est pas du tout le fret ferroviaire de transport voyageurs, mais on voit dans le loti que c'est estimé à 2,69% du coût de l'investissement initial, pour le coup, en ce qui concerne le coût opérationnel. La vérité, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Par contre, on peut être certain que si on veut qu'il y ait un tel volume de trafic qui vienne dans la nouvelle infrastructure, il faut que le prix auquel c'est facturé soit relativement bas. Parce que le temps, c'est une chose, mais l'argent, c'est également important. Donc nécessairement, si on veut qu'il y ait un fort attrait de l'infrastructure pour les voyageurs et les transporteurs, nécessairement, le prix ne doit pas être trop important. Donc on fait l'hypothèse très bête que le coût du service est égal au prix auquel il est facturé. Autrement dit, marge bénéficiaire nulle. OK ? Dans ce cas-là, ça me simplifie pas mal les choses. J'occulte de mon calcul la variation du surplus de l'entreprise ferroviaire. Par contre, ce que je sais, c'est que globalement, existe en France une forme de subvention implicite du fret ferroviaire. Il y a une sorte de subvention croisée de SNCF voyageurs vers le SNCF fret. L'hypothèse que je fais va plutôt à l'encontre de cette subvention implicite. Donc probablement, s'il y a toujours l'idée d'une subvention, ça vous fait penser quoi? Qu'a priori, on devrait plutôt calculer une perte pour l'entreprise ferroviaire. Pourquoi? Parce qu'elle va acheminer plus de marchandises qui, chacune, vont demander une certaine subvention. Autrement dit, des baisses, une hausse de la dépense publique. En ce qui concerne les sociétés d'autoroutes et d'exploitation des tunnels, c'est surtout l'exploitation des tunnels qui va nous intéresser. Parce que ça, on a relativement pas mal d'informations. On sait que le prix du péage pour emprunter le tunnel du Mont-Blanc et du Fréjus, c'est 25 euros par voiture si vous avez un abonnement de voyageurs fréquents. Voilà, quelqu'un a un abonnement du... Bon, et bien dans ce cas, on a des estimations basses et ça coûte 200 euros par camion. Avec le tableau de trafic précédent, vous savez à peu près combien de voitures vont plus utiliser le tunnel et combien de camions ne vont plus utiliser les tunnels. Autrement dit, quel va être le montant de la perte de recettes pour les opérateurs du tunnel. D'accord ? Et si vous faites ça, bah, vous voyez que ça, mine de rien, c'est... Bon, y a une... Désolé, il y a une petite faute à perte totale, mais perte totale s'élève à 88 millions d'euros par an. C'est loin d'être négligeable. Souvenez-vous de l'ordre de grandeur que j'ai avancé avant pour les voyageurs et les transports de marchandises. Bon, la vérité, c'est qu'il y a un autre pan du problème pour lequel on est ignorant, c'est ce qui concerne les coûts d'exploitation sur les sociétés autoroutières. Pourquoi ? Bah parce que d'un côté, que ce soit pour les tunnels, mais également pour les autoroutes, qui n'utilisent plus ces infrastructures, on économise dans l'entretien des infras.
Bah, autant qu'on peut l'espérer.
Mais idem, en fait, pour que le calcul soit complètement complet, il faudrait que je prenne également en compte les pertes pour les sociétés autoroutières, qui du coup ont moins de trafic. Donc d'un côté, on gagne un peu en entretien, de l'autre, on perd en recettes. Donc une fois encore, étant ignorant, je décide de faire l'hypothèse simplificatrice selon laquelle ça s'annule. Probablement, les pertes, vu que les sociétés autoroutières marchent quand même, font pas mal de profits, on peut supposer que les pertes de recettes sont supérieures aux économies d'entretien. Autrement dit, ce serait probablement également négatif à ce niveau-là. OK ? Les variations de recettes publiques. Bon, bah là, je fais un truc assez bête. C'est que je sais qu'il va y avoir moins de kilomètres conduits dans les voitures et dans les camions. Autrement dit, l'État va percevoir moins de taxes intérieures sur les produits pétroliers. OK ? On sait qu'une voiture consomme à peu près 0,08 litres de gazole par VKM, qu'un camion consomme 0,3 litres par camion kilomètre, et que la taxe est de 42 centimes d'euros par litre. Si on fait ça, eh bien, on trouve une perte de recettes liée à la TIPP, à l'ancienne TIPP, de 73 millions d'euros. Attention, c'est... Alors, c'est une estimation basse, probablement parce que là, j'ai pris le taux sur le gazole. Si je m'intéresse à l'essence, le taux est supérieur. Donc, autrement dit, les pertes seraient encore plus conséquentes. Deuxième chose, pour les voyageurs, il y a la TVA qui vient s'ajouter à la TIPP. Autrement dit, à la perte de TIPP, s'ajouterait également la perte de TVA. Troisième chose, je n'ai pas appliqué le coût d'opportunité des fonds publics. Vous pourriez très bien majorer ce montant de 30 ou de 25%, le calcul économique, vous direz que vous ne faites pas forcément une erreur. Ouais.
Enfin, si on pousse le raisonnement vraiment très très loin, on va se dire que de toute façon, on va devoir embaucher des ouvriers pour ce tunnel et que les charges sociales qui seront payées seront des recettes publiques pour le chauffeur. On peut vraiment aller chercher mais, des économies de bout de chandelle assez loin qui représenteront peut-être finalement un plus gros recette que ces manques à gagner. Non ?
Oui, non, tu as raison. Non, mais t'as bien raison. T'as bien raison, sauf que... Bon, ça, c'est relativement direct. Après, c'est vrai que pour construire le chantier, t'as raison, c'est tout autant direct. Ça, je voulais vous montrer juste
les
parce que...
Dans... Chantier,
hein?
Les coûts énergétiques du chantier aussi.
Bon. Oui, oui. Bah, là, j'allais passer aux variations d'externalité juste après, mais pas en lien avec le chantier. Donc, ta remarque est un peu plus pertinente. Là, je voulais juste montrer ça pour la simple et bonne raison que dans les exemples précédents, j'ai pas pris en compte les variations sur la TIPP et que dans le cadre français, c'est bien souvent une dimension du problème qu'il faut, si possible, intégrer. Et après, le point que tu as soulevé, c'est que de toute façon, une bonne analyse coût-bénéfice, pour qu'elle soit bonne, elle doit intégrer le maximum des effets directement liés au projet. Et oui, je suis bien d'accord avec toi. Alors, j'en arrive aux externalités. Il y en a au moins trois. Les gains de pollution de l'air, les gains liés à moins de gaz à effet de serre émis et les gains liés à l'accidentologie. Donc pour les polluants locaux, j'ai repris la valeur de Kiné, du rapport Kiné 2013, qui nous dit que c'est à peu près 1 centime d'euro par véhicule kilomètre roulé en interurbain et que pour les camions, c'est 6 centimes d'euro par camion kilomètre. Par contre, on sait que pour les trajets en montagne, les camions consomment plus, donc émettent plus. Et donc, il y a des coefficients techniques qui ont été produits par le CETRA. Pour les voitures, il faut augmenter de 10% les émissions, pour les camions, de 110%. L'hypothèse, par contre, c'est que ce n'est pas applicable pour les 1000 km, parce que les 1000 km ne sont pas roulés en montagne, mais uniquement pour 100 km, qui correspond à la part du trajet vraiment en haute montagne. Okay ? Si on fait ça, on voit que les gains externes de dépollution sont relativement importants, 32 millions d'euros. Pour les voitures, bah on reprend les paramètres d'émission dont je vous parlais tout à l'heure. On applique le nombre de véhicules kilomètres et de camions kilomètres évités. Et du coup, on voit qu'il y a 174,5 millions de litres de gazole économisés la première année du projet. Or, on sait qu'un litre de gazole génère 2,6 kg de CO2. Donc, on a à peu près 450 000 tonnes de CO2 économisées par an. Et là, on prend une valeur à peu près conforme avec ce que préconise le rapport Kiné de 40 euros par tonne de CO2. Et on voit que les gains de CO2, une fois monétarisés, s'élèvent à 18 millions d'euros par an. Moins que les gains de pollution locale. Mais ça, c'est complètement... c'est en phase. Généralement, on a tendance à plus valoriser la pollution locale que le CO2 et que le bruit. Les accidents évités. Alors, je vous évite le débat. Bien souvent, on a tendance à considérer que moins de véhicules égale moins d'accidents. C'est pas aussi simple que ça. Je vous invite chaudement à vraiment regarder au cas par cas. Je peux prendre un exemple extrême. S'il n'y avait pas d'ambulances qui font des kilomètres, la probabilité de mort du myocarde, dû à un infarctus du myocarde, augmente considérablement. Donc d'un côté, certes, il y a des accidents liés aux véhicules automobiles. De l'autre, ce n'est pas parce qu'on roule qu'il y a nécessairement des accidents. D'accord ? Donc ça, vraiment, il faut faire gaffe à ce niveau-là. Par contre, on sait que si on prend les statistiques sur la mortalité, on sait qu'il y a à peu près 0,003 morts par million de véhicules kilomètres parcourus. C'est un ratio assez simple, vous prenez le nombre de morts, vous divisez par le nombre de kilomètres parcourus, vous tombez sur ce genre de choses. Après, dans le dernier rapport Kiné, la valeur statistique de la vie a été, par rapport au rapport précédent, doublée. C'est un peu bête, mais on dit un mort vaut 3 millions d'euros. Bon. Alors, maintenant, on ne parle plus de valeur de la vie, on parle de valeur statistique de la vie. Pour des histoires déontologiques, je vous avouerai, me dépassent un petit peu. Mais c'est des valeurs tutélaires qui aboutissent à cela. Donc, vous appliquez le nombre de kilomètres évités, ça vous donne le nombre de morts évités, vous multipliez par 3, vous avez, entre guillemets, les économies liées à l'accidentalité. Si vous avez des infos sur le nombre de blessés légers et de blessés graves, vous pouvez faire le même genre de calcul. Pourquoi ? Parce qu'il y a également une valeur du blessé léger et une valeur du blessé grave, que vous trouverez également dans le rapport Kiné 2013. Il y a tout, c'est pour ça que je vous invite vivement à lire. Là, je vais multiplier encore le nombre d'hypothèses généreuses. Je dis que on a le même ordre d'économie dû aux blessés légers et graves que les économies liées au nombre de morts. Ça, c'est parce que on n'a pas d'infos sur le nombre de blessés légers et de blessés graves évités grâce à cette infra. La congestion routière, bien souvent, c'est pointé du doigt comme étant la principale externalité des transports. Ici, Prud'homme a décidé de ne pas l'intégrer dans son rapport. Pourquoi ? Il s'en sort par une petite pirouette intellectuelle, disant que, à un moment, le tunnel du Fréjus a été fermé pour rénovation, et du coup, il n'y avait que le tunnel du Mont-Blanc qui accueillait tout le trafic. Pendant ces épisodes de travaux, le trafic, il y a bien eu évidemment quelques épisodes de congestion, mais globalement, un seul tunnel arrivait à accueillir tout le trafic. Ce qui fait penser que les deux tunnels fonctionnent actuellement à peu près à 50-60% de leur capacité. Et donc, si gains de congestion il y a, ils sont minimes. Parce que la congestion, contrairement à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le confort, si vous avez une courbe temps, nombre de véhicules, c'est tout sauf linéaire. C'est vraiment quadratique et exponentiel. Donc autant les gains de décongestion sont importants si vous intéressez à une infrastructure très congestionnée, autant si vous intéressez à une infrastructure de transport peu congestionnée, les gains vont être vraiment minimes. Donc l'hypothèse est contestable. Je vous laisse le soin de la discuter. Toujours est-il que dans ces calculs, la congestion routière a été négligée. L'investissement initial, alors je vous ai dit que c'était un montant initial de 26 milliards d'euros pour des travaux qui dureraient. J'utilise le conditionnel parce qu'il y a bien des travaux de forage, mais je crois qu'à proprement parler, l'infrastructure, je peux me planter, mais je crois au point mort en ce moment. Bon, bref, imaginons que ça se fasse. Qu'est-ce que vous faites? Vous appliquez d'abord les 30% de coût d'opportunité des fonds publics aux 26 milliards. Vous divisez par 6 et ça vous donne une sorte de montant annuel d'investissement que vous allez annualiser sur 6 ans. D'accord? Donc, entre guillemets, la vanne juste liée aux travaux de construction sur 6 ans, c'est ce montant-là. Ensuite, là, on va essayer de prendre en compte la valeur résiduelle. On dit que l'infrastructure va être là pour 50 ans et qu'il y a un taux de dépréciation du capital qui est relativement bas, de 1% par an. Donc, vous appliquez la valeur de marché, vous appliquez le taux de dépréciation de 1% par an aux 26 milliards auxquels, malgré tout, on doit toujours appliquer le coût d'opportunité. Et vous voyez que dans 50 ans, ça vaudrait, la valeur de marché serait de 20 milliards 400 millions. Sauf que ça prend pas en compte le fait qu'un euro aujourd'hui, ça vaut pas un euro demain. Vous devez également appliquer le taux d'actualisation. Donc, vous appliquez le taux d'actualisation de 4,5%, mais à l'horizon de 50 ans. Vous l'appliquez à ce montant-là et vous voyez que la valeur résiduelle baisse considérablement. Elle passe à 2 milliards. Et ça, c'est dû au fait que juste c'est le poids du présent par rapport au poids du futur. C'est le principe même de l'actualisation. Exactement. Non, mais là, c'est vraiment pour essayer de... On a fait pas mal d'hypothèses contestables. Alors, si on peut redorer un tout petit peu le blason, autant le faire. Mais ça ne change rien, de toute façon. Là, vous avez la synthèse des effets. Donc, la première colonne, c'est les effets annuels. On a les gains de surplus des passagers, des marchandises, les pertes pour les sociétés qui gèrent les tunnels, les pertes de TIPP pour l'État, les variations d'externalité. Et on voit que le bilan annuel, sans prendre en compte l'investissement, ça équivaut à une perte de 26 millions d'euros par an. Donc, si vous rajoutez à cela la vanne du chantier, quoi, de l'infra, et même si vous y ajoutez la faible valeur résiduelle qu'on a calculée avant, vous tombez sur un total, une vanne totale, incluant l'investissement initial net de sa valeur résiduelle, proche de 27 milliards d'euros. Donc, la synthèse de ce projet consiste à dire que, il faut vraiment pas prendre ça pour argent comptant. Je vous invite, si ça vous intéresse, à refaire cela proprement, en épluchant bien toutes les questions du problème et en allant prendre les bonnes informations. Toujours est-il, avec ce petit exercice un peu simpliste, on observe des bénéfices réels. Ils existent, ils sont de l'ordre de 135 millions d'euros par an. Mais malheureusement, ces bénéfices annuels sont plus que compensés par les coûts. Donc avant même la prise en compte de l'investissement, on a des pertes. Donc vous comprenez bien que rajouter à ces pertes annuelles un investissement de 26 milliards, ça ne peut que donner un résultat négatif. Et en ce sens, malgré tous ces défauts, ce petit calcul va dans le sens des conclusions du commissaire général à l'environnement ou de la Cour des comptes. Excusez-moi. Pour conclure là-dessus, justement, on parlait du SNIT et de la commission 21. Ça fait partie des projets qui ont été repoussés, à un horizon à définir. Également, on peut produire un ensemble de tests de sensibilité. Donc, par rapport au benchmark, j'ai choisi des taux de capture supérieurs. Ce que j'appelle taux de capture, c'est de la route vers le ferroviaire. j'ai choisi un autre taux d'actualisation, j'ai augmenté le taux de croissance du trafic, j'ai augmenté les voyages, la part des voyages détournés, j'ai multiplié par deux les valeurs environnementales et j'ai augmenté les gains de temps. Ça reste globalement négatif. Attention, à mon avis, le test qui aurait été le plus pertinent si on veut à tout prix augmenter le bilan, c'est de faire quoi ? C'est de réduire la part, le nombre de voyages détournés. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, chaque voyage détourné, en fait, il y a une perte assez importante en ce qui concerne la TIPP. Donc si vous perdez 800 km plutôt que 1000 km, tout de suite, mécaniquement, ça améliore votre bilan. Juste pour conclure, sachez que si on voudrait obtenir un taux de rendement interne de 4,5% avec ce projet-là, il faudrait avoir un bénéfice annuel proche de 1 milliard d'euros la première année. Ce qui reviendrait à multiplier par 7 les bénéfices actuels et à supprimer tous les coûts. Donc ça, c'est juste pour être encore un peu plus méchant. Et juste pour finir, je voulais vous montrer ça, qui est la feuille de calcul donc, qu'avait utilisé Rémi Prudhomme pour rédiger son article. Donc c'est juste pour vous montrer que dans le meilleur des mondes, quand vous pensez à votre problème, vous essayez de le mettre sous un tableur Excel de cette forme-là. Donc là, c'est essentiellement la valeur des paramètres. Vous décomposez les quantités physiques, autrement dit le trafic, en termes de voyageurs, de marchandises. Et là, par exemple, vous voyez très bien que ça lui permet de faire augmenter le trafic avec l'hypothèse de taux de croissance annuel. À cela, c'est associé les différentes variations de surplus économique. Et pourquoi c'est intéressant de faire ce genre de choses ? Après, quand vous voulez faire les fameux tests de sensibilité, vous avez juste à changer un des paramètres là-haut, automatiquement, toute votre feuille de calcul s'en trouve modifiée. Donc ça, c'était juste pour vous la montrer, parce que si vous voulez faire de l'analyse coût-bénéfice, vraiment, allez pas croire que je suis expert forcément en la matière, parce que je m'estime encore relativement jeune chercheur dans la profession. Je vais en faire d'autres, mais mine de rien, je commence à me rendre compte que c'est un exercice facilement critiquable, hautement manipulable, et faire des tests de sensibilité, ça permet de vous prévenir contre toute critique abusive, ou tout du moins de voir où est-ce que les résultats sont vraiment, vraiment, vraiment sensibles. Et donc, c'est le dernier slide. L'analyse coût-bénéfice est un exercice obligatoire qui permet de juger la rentabilité socio-économique des infrastructures dans le transport, mais le dernier rapport Kiné a introduit tout un chapitre où il discute de l'utilisation de l'analyse coût-bénéfice pour d'autres secteurs, notamment le secteur de l'énergie. Il faut savoir que ce n'est pas très dur à faire, mais que ça nécessite d'avoir une bonne dose de bon sens. Pour bien identifier les effets, bien voir quels paramètres utiliser et quelles sont les limites de l'exercice. D'où, je me répète, désolé, mais la nécessité de faire pas mal de tests de sensibilité. Surtout, le calcul économique n'est pas infaillible, d'où l'importance des études ex post, et le risque, c'est qu'il soit manipulé, qu'on s'en serve pour justifier des choix politiques qui... Voilà. Et donc, dernier conseil, vous allez croire que... c'est gratuit, donc je ne fais pas de pub, mais vraiment, je vous incite à aller le télécharger et à jeter un coup d'œil attentif à cela. Si vous êtes amené à faire ce genre de calcul, ça risque de devenir le document de référence pour, peut-être pas la décennie à venir, mais au moins les 5-6 prochaines années. C'en est fini pour aujourd'hui, et merci pour votre attention.